Hey, I'm Ryan Reynolds.
At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Bonjour à tous et bienvenue à vous pour Midi News. Trop de patients, pas assez de soignants. L'équation impossible n'épargne aucun hôpital, y compris les grands CHU. Pour y remédier, une piste choc, refuser l'entrée des urgences aux moins malades. Alors la piste fait hurler beaucoup de soignants, on va en parler. L'hôpital, puis l'école, avec cette fois-ci une pénurie de professeurs à la rentrée. La sonnette d'alarme est tirée, mais comment en est-on arrivé là? De son côté, le ministre de l'Éducation, Papa Ndiaye, promet qu'il y aura un professeur par classe. Et puis un sondage sur le retour des enfants de djihadistes de Syrie, sujet ô combien sensible que celui des enfants. Eh bien, 59% des Français sont opposés et ne les considèrent pas forcément comme des victimes. Et puis cette question, avez-vous été choqué par l'ambiance? Survolté, chauffé à blanc hier, le chahut à l'Assemblée nationale lors du discours de politique générale d'Elisabeth Borne. Une agitation orchestrée depuis les rangs de la NUPES. On va en parler également. Voilà pour le programme. Nos invités dans quelques instants. Mais d'abord, le journal. Bonjour à vous, Olivier.
Bonjour, chère Sonia. Bonjour à tous. Et à la une de l'actualité, la fin de la ristourne de 18 centimes au profit de l'indemnité carburant. Une annonce ce matin de Bruno Le Maire. L'aide sera mise en place le 1er octobre. Ce sera pour les travailleurs à revenus modestes et les gros rouleurs. Et elle pourrait être demandée par simple déclaration sur le site de la Direction générale des finances publiques. Et puis, autre annonce, Elisabeth Borne veut renforcer la présence policière. Elle a expliqué hier devant les députés vouloir doubler la présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030. Les explications avec Corentin Briot.
C'était l'un des thèmes attendus lors de la prise de parole d'Elisabeth Borne hier à l'Assemblée nationale. La première ministre a été claire, elle veut renforcer la présence de la police sur le territoire.
Moi, j'entends la colère des Français et l'exaspération des forces de l'ordre face aux multirécidivistes. La réponse, c'est le refus de l'impunité. Nous doublerons le temps de présence des forces de l'ordre sur le terrain d'ici 2030.
Pour les forces de l'ordre, ces mesures sont sans surprise et surtout trop éloignées dans le temps.
C'est pas une nouveauté, hein. Ça avait déjà été annoncé par le président lui-même lors d'une allocution à Nice, de mémoire, dans le cadre du Beauvau de la sécurité. Donc, il n'a fait que reprendre cet élément de langage et cet objectif d'ici 2030. Est-ce que c'est possible? Il y a 8 ans qui nous séparent de cette date-là. Forcément, il y aura beaucoup de choses à changer.
En attendant ces mesures, le gouvernement va présenter en septembre un projet de loi d'orientation et de programmation du ministère de l'Intérieur, visant entre autres à répondre aux problèmes de délinquance et de criminalité.
Ce sera l'un des sujets abordés dans un instant avec Sonia Mabrouk et ses invités. Une rentrée 2022 qui s'annonce catastrophique avec le manque de profs. Hier, tous les syndicats de l'éducation étaient réunis devant le rectorat de Rennes où s'organisait un job dating pour recruter des contractuels pour tenter justement de pallier à ce manque d'enseignants. Un reportage de Mickaël Chailloux.
Quelques heures avant les vacances scolaires, ces enseignants sont déjà mobilisés pour la rentrée. Fait rare, tous les syndicats de l'éducation ont répondu à l'appel pour tirer la sonnette d'alarme avant le 1er septembre. Il manque en France, selon les syndicats, 80 000 enseignants.
On va manquer d'AESH, on va manquer de profs de maths, on va manquer de profs de techno, on risque même aussi de manquer, dans certains cas, d'enseignants du premier degré, puisqu'on va avoir un manque de personnel remplaçant. Je n'ai jamais vu une rentrée aussi mal ficelée.
Sur la rue, manifestation. À l'intérieur, pour pallier le manque de professeurs, le rectorat organise un job dating pour recruter des contractuels.
Ils sont en train de recruter des gens qui, sans condition de concours, sans formation, seront professeurs dans les établissements l'année prochaine.
Selon les chiffres du SNES, 25% des postes proposés au concours du second degré ne sont pas pourvus. C'est même 70% pour le CAPES d'allemand.
En effet, plus personne ne veut passer le concours. Un jeune qui débute dans le métier aujourd'hui, il a 1,1 le SMIC avec un Master 2, quand c'était 2,2 fois le SMIC en 1982.
De nouvelles mobilisations sont déjà programmées pour la deuxième quinzaine d'août.
Boris Johnson fragilisé, jette l'éponge. Selon la BBC, le Premier ministre britannique va démissionner aujourd'hui à la tête du Parti conservateur. Près de 50 ministres ont déjà quitté leur poste au sein de son gouvernement. Ils mettent en cause l'honnêteté de Boris Johnson et lui reprochent de nombreux scandales. Il devrait rester en poste jusqu'à l'automne prochain. Dans un instant, place au débat avec Sonia Mabrouk et ses invités. Mais avant, un mot d'économie. On va reparler de la nationalisation d'EDF et ce qui va changer pour le consommateur. Les précisions avec Éric de Ritmaten.
Eh bien oui, un État à 100% présent chez EDF, voilà ce qui va se passer. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que surtout les tarifs, vous savez, imposés par Bruxelles, qui sont calés sur les prix du gaz, eh bien ça pourrait bien terminer, ça pourrait bien se terminer, parce que bien sûr les Français aujourd'hui pourraient payer très cher le prix de l'électricité. En sortant de ces tarifs imposés par Bruxelles, les choses pourraient s'arranger et seul l'État français peut donc reprendre la main sur ces fameux tarifs. En attendant, bah, vous le voyez, c'est assuré une souveraineté nationale. L'énergie, après tout, c'est un bien précieux. Un État doit le contrôler à 100%. Il y a aussi de l'argent pour le nucléaire. Le grand programme qui est prévu, qui avait été annoncé par Emmanuel Macron, 60 milliards prévus. Et puis, c'est une manière pour l'État d'effacer toutes les dettes et les déficits. Et surtout, un dernier point, reprendre la main, décider comme il l'entend, sans avoir l'intervention d'actionnaires privés, même s'ils étaient peu nombreux, puisqu'ils ne pesaient que 16% du capital. Donc, EDF redeviendra 100% privé. Et le changement, eh bien, c'est que le patron actuel, Jean-Bernard Lévy, a annoncé qu'il partirait bien sûr plus vite que prévu.
Vos débats Midi News avec nos invités en plateau. Nathan Dever nous accompagne. Bonjour à vous et merci d'être là. Agrégé de philosophie, éditeur à la revue La Règle du Jeu. Maître Najwa Laïté est également présente. Bonjour.
Bonjour Sonia Mabrouk.
Merci d'être là. Vice-présidente du Mouvement Territoire de Progrès. Et puis à côté de vous, c'est Jean-Loup Bonamy, merci aussi, qui est spécialiste en géopolitique, qui présente l'excellente émission sur CNews le samedi à 11h, Info du Monde. Et Jean Messia, qui est président de l'Institut Apollon, est également présent. Bonjour à vous.
Bonjour.
Est-ce que vous êtes souvent choqué dans la vie? Non, à vous voir, non. Pourquoi je vous pose la question? Est-ce que vous avez été surpris, un peu dépité comme certains, hier, quand vous avez vu ce spectacle à l'Assemblée nationale? On va voir quelques images, une ambiance survoltée, chauffée à blanc. On arrivait à peine à entendre parfois le discours de la Première ministre, hurlement, interpellation, depuis quel rang? Dites-nous.
NUPS.
Voilà. Ça vous a choqué ou pas?
Je suis allé une fois à l'Assemblée pour assister à des débats parlementaires et j'avais été choqué, enfin étonné par quelque chose. C'est que quand on regarde la télévision, on entend la personne qui parle. Mais en fait, à l'Assemblée, on n'entend rien. Je pense au montage, le son est fait que pour camoufler le bavardage, les hurlements, les cris, les huées, etc. Mais c'est permanent. Et en fait, l'Assemblée, c'est un poulailler de hurlements permanents.
Attention à vos mots, oui.
Et non, oui. Mais c'est au contraire, je trouve que c'est salutaire. C'est la vie parlementaire qui est là et qui s'exprime. Et c'est tout à fait dangereux. C'est les scènes qu'il y a eu pendant les 5 dernières
années. Pour vous, c'est de la vitalité démocratique.
Ah, bien sûr. Pendant 5 ans, on a observé un Parlement qui était homogène, qui était unanime, qui était pour le coup très calme. C'est tout à fait salutaire là de voir qu'une politique, quand elle est présentée, elle puisse être contestée vivement dans l'espace d'une assemblée.
Vous n'êtes pas d'accord?
Non, disons que je suis d'accord de manière générale dans le droit commun de l'Assemblée nationale quand on présente des textes ou quand des députés prennent la parole. Effectivement, là, on a souvent droit à des vociférations, des contestations, voilà. Mais là, en l'occurrence, il s'agissait du discours de politique générale qui a toujours été dans notre vie démocratique un moment solennel. Donc effectivement, il y a, je dirais, quelque chose d'exorbitant du droit commun en l'espèce, c'est-à-dire que c'est la première fois que le Premier ministre s'adresse à l'Assemblée et d'ailleurs s'adresse à la nation dans cette configuration-là. Et donc il appartenait aux députés de faire montre d'un minimum de respect. J'ajoute que quand on dit que ça a vociféré, tout le monde n'a pas vociféré. C'est toujours les mêmes personnes.
Ah non, la majorité a applaudi. Le petit doigt sur la couture.
Non, enfin, alors on a le droit d'applaudir.
Vous voulez dire le Rassemblement national?
On a le droit d'applaudir ou de rester silencieux, éventuellement de temps en temps. Voilà. Mais cette espèce de chahut, si vous voulez, qui a eu lieu de la part de députés qui pensent qu'ils sont, sont des rebelles et des révoltés parce qu'ils viennent en guenilles à l'Assemblée nationale et qui vocifèrent dans les instants de solennité pour faire peuple. Parce que tout ça, la NUPES vous explique que c'est pour faire peuple.
Vous y voyez un mépris?
Ah bah c'est un mépris du peuple, ouais, parce que moi je pense pas que le peuple se reconnaisse dans ce type de guignolerie, si vous voulez.
Quelle image ça donne de notre démocratie? Est-ce que c'est au contraire l'image d'une démocratie vivifiée, qui ressemble, une représentation nationale qui reprend au peuple, ou est-ce que, d'ailleurs comme Marine Le Pen le redoutait, ça se transforme en ZAD?
Non mais moi je partage les propos qui viennent d'être dits. Il s'agissait d'un discours de politique générale. Il s'agissait pas de débattre sur une proposition de loi ou un projet de loi. Là c'est vrai, ça chahute. Moi-même j'ai assisté à des débats à l'Assemblée nationale. Et oui, il y a de l'ambiance, il y a des vociférations, il y a des hurlements. Enfin bon, voilà. Mais là c'est un temps, et vous le disiez très justement, solennel. Solennel. Et vous avez pas que le RN, hein, vous avez d'autres partis d'opposition qui ont su se tenir.
C'est plus attendu, qui ont su
se tenir. Et c'est vrai que moi, je ne suis pas étonnée par le comportement de l'ANUPS, c'est particulièrement de LFI. D'ailleurs, ils annonçaient qu'ils allaient ne pas se laisser faire, ne pas respecter
les
temps de solennité. Comportement qu'ils ont au quotidien.
Antidémocratique. Écoutez Bruno Le Maire à ce sujet ce matin sur Europe 1.
Ce n'est pas nous qui ne voulons pas travailler, par exemple, avec la France insoumise. Quelle drôle d'attitude que d'arriver au Parlement, où vous venez d'être élu par le peuple français, et de dire d'emblée, nous ne voterons pas ce texte, nous ne travaillerons pas. Prenons tous des vacances, on est au mois de juillet, il fait beau, allons à la plage, plutôt que d'aller au Parlement, ce sera beaucoup plus agréable pour tout le monde. Mais quelle attitude irresponsable de la part des députés de la France insoumise de dire, avant même que le débat ait commencé, nous refusons le débat. C'est une attitude qui n'est ni démocratique, ni constructive, ni conforme, je pense, à ce que souhaite une immense majorité de Français qui veulent que nous travaillions tous le mieux possible ensemble.
Alors là, il va sur la forme et sur le fond, mais quand même antidémocratique. Ça vous fait réagir, Jean-Loup Bonamy, c'est le cas ?
Non, ça ne me fait pas réagir parce que je trouve qu'il y a tellement des problèmes beaucoup plus graves en termes de mépris de la démocratie en France. Enfin, ça me paraît vraiment un problème totalement mineur. Concernant les médias, je vous préviens que ça va être comme ça pendant 5 ans, sauf s'il y a une dissolution. Mais en tout cas, ça va être la stratégie qui va être adopté par
la qualifier, c'est le pourrissement, c'est une zadisation de,
non, mais faut,
de... ou alors c'est la démocratie,
voilà, c'est... moi je pense plus que c'est la démocratie. D'accord. Déjà
quand il n'y a pas de débat, vous avez de construire, non, mais,
plus,
de
plusieurs
proposer.
Choses Oui. Plusieurs choses. Déjà, ce qu'a dit Nathan, c'est très vrai. Il y a eu pendant 5 ans, de 2017 à 2022, un Parlement qui était une sorte de chambre introuvable, totalement au service du président Macron. Donc c'est sûr que là, ça fait un peu contraste. Mais finalement, même si là, c'est critiquable, c'est quand même mieux que ce qu'on a vu pendant 5 ans en termes de vitalité démocratique. Parce que ce qui n'était pas démocratique, c'est ce qu'on a vu pendant 5 ans. Deuxièmement, notre ami Jean Messia nous a parlé du moment solennel. Mais comme il n'y avait absolument rien de solennel dans le discours, il ne faut pas demander de respecter quelque chose de solennel qui n'était pas là. C'est un catalogue de mesures.
Vous êtes l'arbitre des élégances ici, c'est vous qui jugez des moments solennels dans notre histoire politique.
J'ai trouvé que c'était objectivement pas solennel. Je peux terminer ?
Oui, allez-y.
Voilà, merci. Et enfin, dernier point, vraiment puisque vous posez la question du caractère démocratique ou antidémocratique, par exemple, ce qui est lourdement antidémocratique dans ce pays, c'est qu'on a une constitution et que cette constitution, par exemple, elle repose sur 2 piliers. Les élections, qui ont lieu, et les référendums. Le dernier référendum qui a été organisé, c'était en 2005. On n'a pas tenu compte du résultat. Ça fait 17 ans qu'on n'en a pas fait. Ça, c'est antidémocratique. Des députés élus qui crient dans une assemblée, ça n'a rien d'antidémocratique.
On ne peut pas laisser dire ça. Je pense que...
Non, mais la vie parlementaire sous la Troisième République, elle était beaucoup plus musclée que ça.
Sans doute,
plus agitée.
Mais sans doute, parce que c'était un régime parlementaire. Ça ne vous a pas échappé. C'était pas un régime semi-présidentiel comme c'est le nôtre aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que la solennité de l'instant ne se détermine pas en fonction du contenu du discours. C'est le contenant, c'est-à-dire que c'est un moment de la vie parlementaire qui est le moment du discours de politique générale.
Il faut arrêter d'être formaliste comme ça.
Non, mais attendez. Alors, et vous ne pouvez pas dire que parce que la société en fait part à volo, finalement, pourquoi l'Assemblée nationale, il n'y aurait pas le même boxon qu'il y a à l'extérieur. Je suis désolé, non.
Mais ça a toujours été comme ça, ça fait partie de la vie parlementaire.
Ne mettez pas le boxon sur ce plateau.
Précisément, je termine mon propos. 2 erreurs ne font pas une vérité. Ce n'est pas parce que c'est le boxon à l'extérieur que l'Assemblée nationale, au contraire, l'Assemblée nationale a un devoir, je dirais, de modèle, d'exemplarité. Ce sont des élus du peuple ils doivent montrer ce qu'est
non, mais
le
ils
débat
pas
démocratique.
Le feu au Reichstag
voilà.
Non plus.
Non, mais d'accord. Mais si vous empêchez quelqu'un de parler, ça n'est pas très démocratique. Mmh. Voilà, vous pouvez ne pas être d'accord avec lui. Vous avez de toute façon.
Non, mais il y a bien pire comme atteinte à la démocratie.
Non, mais encore une fois, deux erreurs ne font pas une vérité, Jean-Loup.
Jean-Loup est en train de vous donner des leçons de démocratie sur ce plateau. Ça restera comme un moment quand même.
Moi, je partage vraiment les propos de Jean Messia, c'est-à-dire que. Là, on parle de choses importantes. Contrairement à ce que vous dites, hein, je suis désolée, le discours de politique générale fixe aussi un cap. On a parlé de pouvoir d'achat. J'étais sensible.
Mais il vous dit qu'il y a d'autres coups de canif à la démocratie.
Non, mais attendez, c'est un temps fort. Non, non, moi, je ne peux pas être d'accord avec ça. Le discours de politique générale est un temps fort dans notre démocratie. D'ailleurs, il était très attendu. Hein.
Je vous rappelle qu'il était très attendu. Je ne sais pas si tous les Français étaient hier collés à leur télévision en disant. À 15h, c'est le discours de politique générale.
Non, mais en tous les cas, vous, journalistes, vous étiez en attente. Et je pense que les Français veulent un gouvernement qui travaille. Donc, il y a quand même une impatience à ce niveau-là, avec un taux d'inflation qui va atteindre plus de 6% à la rentrée. Les Français ont besoin d'avoir un cap, d'être rassurés. Là, il y a un projet de loi qui va être discuté en juillet.
Oui, on va en parler.
On parle de choses sérieuses dans un discours de politique générale.
Attends, on n'est pas d'accord.
C'est pas de la légèreté. Et j'entends, les débats à l'Assemblée nationale ont toujours été musclés. Mais oui, ils ont été toujours musclés, mais il y avait du fond. Là, si c'est pour...
C'est un tir de barrage, là.
Justement, pas si du c'est tout. Pour c'est faire un tir du barrage, ouais. Que ce soit non constructif, ça n'a aucun intérêt. D'ailleurs, même leur électorat n'attendent pas ça d'eux.
Non, mais je ne suis pas d'accord du tout avec ce que vous dites, parce que, et Jean-Loup l'a dit, c'est très important, le macronisme est né d'un refus du régime parlementaire ou parlementariste. C'est ça, hein. Emmanuel Macron, quand il est rentré en politique, c'était pour dire le système, comme il disait alors, bavarde trop. À l'Assemblée, les gens, l'UMP, le PS, ils bavardent, ils s'opposent pour rien, c'est du blabla. Ce refus du blabla, qui est vieux comme la haine du parlementarisme depuis les racines de la Troisième République, il est politiquement extrêmement dangereux. Parce que oui, les députés, ils peuvent bavarder. Oui, il leur arrive de dire des choses pas très intéressantes, de foutre un petit peu le boxon, comme on pourrait dire, mais... C'est le principe de la démocratie parce qu'on n'a pas le choix. Sinon, c'est
sur un débat parlementaire. Là, on n'est pas dans un débat parlementaire.
Rappel à l'ordre, puisque vous aimez l'ordre. Un instant. Non, les titres. Et juste après, on vous remet. Évidemment, c'est News Info, les titres avec Audrey.
Face à l'inflation, le gouvernement présente cet après-midi en Conseil des ministres son projet de loi pour le pouvoir d'achat. Une série d'aides est prévue comme la revalorisation des 4% des pensions de retraite et des prestations sociales, un chèque alimentaire de 100 euros, un bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore la suppression de la redevance télé. Haagen-Dazs rappelle ses glaces vanille vendues en France. Le groupe a détecté des traces d'oxyde d'éthylène, un pesticide cancérogène interdit en Europe. 4 lots sont concernés. La marque s'excuse auprès de ses clients et assure qu'ils seront remboursés. Enfin, en tennis, Rafael Nadal se qualifie pour les demi-finales de Wimbledon. L'Espagnol de 36 ans a dominé l'Américain Taylor Fritz après avoir été mené 2-7 à 1. Score final 3-6-7-5, 3-6-7-5-7-6. Il affrontera demain l'Australien Nick Kyrgios pour une place en finale.
L'éloge de la mesure par Jean Messia. Il eut cru.
Ouais, surtout quand
tout, tout peut arriver.
Tout peut arriver.
Tout peut arriver.
J'essaye de parler juste. Oui, oui. Voilà. Donc pour répondre à Nathan Devers, effectivement, Emmanuel Macron a dit que ce pays bavardait trop. Il voulait en finir avec le système parlementaire. Le problème, c'est que lui-même a instauré un nouveau type de bavardage à travers le grand débat national, à travers toutes ces agoras créées ex nihilo qui servent finalement rien, comme la convention sur le climat là où ils ont bavassé pendant je ne sais pas combien de temps à plusieurs dizaines de personnes. On n'en a rien retiré de particulier. Donc vous voyez, le problème, c'est qu'il est contre le bavardage démocratique qui a lieu au sein de l'enceinte parlementaire. Mais ça ne l'empêche pas, lui, de créer d'autres enceintes à sa mesure et à sa main, d'une certaine façon, pour bavarder. Mais je crains que son bavardage n'ait été encore plus inutile que celui qu'il a
fait. C'est long, là, vous bavardez un peu aussi.
Le bavardage parlementaire.
Pardon ?
Raison de plus pour réhabiliter le bavardage
parlementaire. Oui, mais ça, c'est pas du bavardage parlementaire, ça,
c'est ce que j'allais dire.
Ils se prennent pour des Lénines en barbapapa, les mecs.
Ouais. Moi, j'irai pas jusque-là. Mais...
Mathilde Panot. Vous allez me parler de Mathilde Panot. Parce que je suis sûre que ça vous a. Ça prolonge le débat. Ça prolonge le débat parce qu'elle a provoqué un tollé hier. Et c'est très intéressant de voir en deux temps. Elle prononce son discours. Elle est présidente du groupe La France Insoumise à l'Assemblée. Elle prononce son discours. Elle dit un mot précis au sujet de d'Elisabeth Borne. Et on voit que c'est ensuite que tout le monde prend conscience du mot utilisé et des répercussions eues égard au parcours de la Première ministre. Alors, quel est ce mot? C'est le mot rescapée. Elle a dit d'Elisabeth Borne qu'elle était rescapée. On va écouter la réaction d'Elisabeth Borne et puis après on vous racontera évidemment pourquoi, eu égard au parcours d'Elisabeth Borne, ça a provoqué de vives réactions.
Madame la Présidente Panot, j'ai écouté au milieu de vos invectives vos propositions. Aucune ne peut être balayée d'un revers de main. Mais cependant, je vous le dis du plus profond de mes convictions, penser que le blocage des prix ou le SMIC à 1500 euros sont les solutions pour faire face aux défis du pays aujourd'hui, c'est comme placer nos économies dans les emprunts russes. C'est la banqueroute assurée pour le pays.
Sur le fond, le mot qui a été utilisé c'est rescapé et maintenant on va écouter Elisabeth Borne qui explique son histoire familiale et pourquoi ce mot utilisé. Moi je crois pas à mauvais escient. Franchement là par
on n'en sait rien.
Bon, écoutons Elisabeth Borne. C'est plus compliqué que ça. Bon.
Car si je suis ici devant vous, Première ministre de la France, je le dois à la République. C'est elle. C'est elle qui m'a tendu la main en me faisant pupille de la nation, alors que j'étais cet enfant dont le père n'était jamais vraiment revenu des camps.
Bon, voilà. C'est par rapport à... Alors, moi, la question, évidemment, vous avez vu ensuite toutes les réactions sur les réseaux sociaux et au-delà. Au moment où vous avez entendu ce mot, est-ce que vous avez tout de suite fait le rapprochement? Et surtout, est-ce que c'est fait à mauvais escient? Parce que là, ça serait grave.
Le problème, si vous voulez, c'est que c'est vrai que le mot a l'air anodin. C'est le mot rescapé, c'est pas quelque chose qui spontanément relie à la Seconde Guerre mondiale ou à la Shoah, etc. Le problème, si vous voulez, c'est que la France insoumise a, d'une part, instauré un contexte, c'est-à-dire... avec des relents d'antisémitisme, par exemple lorsque Jean-Luc Mélenchon accueille Jérémy Corbyn, etc., là, sa participation à la manifestation du CCIF, toutes ces déclarations quand il dit de Jérémy Corbyn qu'il a été victime de la pieuvre sioniste, ce sont les mots de Mélenchon. Donc il a créé, si vous voulez, un environnement sémantique qui fait qu'on ne peut pas être insensible à l'usage de ce mot. La deuxième chose, c'est que la gauche, et en particulier l'extrême gauche, ont été les spécialistes de l'instrumentalisation de la sémantique pendant des décennies. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on prononçait un mot qui avait l'air anodin, c'était des spécialistes pour vous mettre le nez sur le guidon en disant « mais vous avez utilisé ce nom, c'était pas
si
du tout un hasard ».
Si c'est fait en connaissance de cause, etc. C'est très grave. Alors elle s'est défendue, elle a dit « mais pas du tout ». C'est rescapé, évidemment, repêché par sa majorité qui l'a...
D'accord. Enfin, si c'était le Rassemblement National, un député du Rassemblement National qui avait utilisé ce mot, évidemment, l'interprétation... Oui. N'aurait pas été du tout la même. Donc, vous savez, en politique, on ne doit rien au hasard.
Alors moi,
allez-y.
Moi, ma question, c'est soit une maladresse crasse, faut le dire, soit une monstruosité délibérée. Pourquoi je dis ça? Parce que ce type de discours, il n'est pas fait la veille pour le lendemain. Les mots sont pesés, c'est relu par plusieurs personnes.
Sûr, entendre le
discours. Non, mais je sais, pour avoir travaillé avec des hommes et des femmes politiques, je sais comment ça se passe. Donc, c'est extrêmement bien préparé. Les mots sont pesés. Et c'est vrai que la France insoumise a toujours été dans la provocation pour créer le buzz, quitte à blesser, hein, ils vont jusque-là. Donc, moi... Je vais vous dire, je serais pas étonnée que ce mot-là ait été utilisé avec toute cette lourdeur historique. Voilà, je ne suis pas sûre de ce que je dis, mais en tous les cas, je sais comment se prépare un discours.
Donc le mot a été intégré, pesé et dit.
Moi, je pense que la question n'est pas tout à fait là parce que personne n'est dans la tête de Mathilde Panot. On ne peut pas savoir si elle a quelle était son intention en disant ce mot. Mais en tout cas, on peut remarquer une chose, c'est que dans la vie politique, le mot rescapé, son usage pour désigner un ministre qui reste dans un gouvernement après une crise, est un usage tout à fait courant et banal. J'ai retrouvé, j'ai regardé ça, il y a plein d'articles de presse où certains ministres, depuis des décennies, sont désignés comme rescapés pour des situations analogues. Et je trouve une chose, c'est qu'on galvaude et même on trahit le combat contre l'antisémitisme quand on l'utilise à mauvais escient, parce qu'il faut quand même avoir perdu ce que j'appellerais l'esprit historique ou le sens de l'histoire pour voir de l'antisémitisme dans un lexique politique qui n'en est pas. Surtout qu'après, elle a dit qu'elle ne voulait pas utiliser...
Il y a un contexte, excusez-moi, un lexique politique qui est utilisé, on le sait, pour conforter une idéologie quand même qu'ils défendent. Excusez-moi, ils tiennent quand même des propos sur l'antisémitisme, moi par exemple, qui me conviennent pas. Parfois, on se pose la question. Donc c'est pour ça que on doute.
C'est pour ça qu'on pose la question.
Survie à une crise, de rescaper d'une crise. Alors ensuite, évidemment, c'était maladroit dans le cas de Mme Borne.
Est-ce que c'est une maladresse? Parce que c'est davantage compte tenu de précédents propos, déclarations et d'un contexte et d'une idéologie. C'est ça la question.
La gauche est spécialiste de ça, vous pouvez pas dire le mot islamiste sans qu'ils vous disent ah mais vous vous attaquez à tous les musulmans. Enfin, vous voyez, l'extrême gauche est une spécialiste de ça.
Monsieur Messia, on va marquer une courte pause, mais il y a quand même quelque chose moi qui m'interpelle. Hier, parce que tout à l'heure vous avez dit non, la démocratie, le respect, Elisabeth Borne, elle a cité tous les présents de groupe, sauf
le Rassemblement National et l'ANUS.
Mais est-ce qu'il y a des Français qui votent pour ces partis? Oui. Donc quand on ne cite pas. Mais est-ce qu'on ne méprise pas cette partie des Français aussi? Non, mais vraiment, moi, hier, ça m'a interpellée.
À titre personnel, ça n'engage que moi, je les aurais cités. Ouais.
Voilà. Courte pause et on se retrouve. Beaucoup de sujets. À tout de suite. Quelques instants. Sujet essentiel qui nous concerne tous ou peut nous concerner, ou la famille, évidemment. L'hôpital, les grands CHU. Mais que se passe-t-il et quelle piste va être avancée? Trop de patients, pas assez de soignants. Va-t-on trier les patients aux urgences? En tous les cas, c'est l'une des pistes de la mission Flash, vous savez, qui a été commandée. On en parle juste après les titres.
C'est de l'effondrement du pont de Gênes. C'est ouvert ce matin. Vous vous souvenez de ces images choc de l'effondrement qui avait fait le tour du monde. C'était il y a 4 ans. 43 personnes avaient perdu la vie. Selon l'un des procureurs, les dirigeants et gestionnaires de l'infrastructure étaient conscients du risque d'effondrement. Et justement, dans quel état sont les ponts en France? Un rapport du Sénat révèle que 35 000 ponts seraient considérés comme dangereux. En 2019, la Commission avait estimé à plus de 25 000 le nombre de ponts en mauvais état. Un chiffre réévalué donc à la hausse en 3 ans. Et puis près de 6 Français sur 10 s'opposent au rapatriement des enfants de djihadistes français détenus en Syrie. C'est le résultat de notre dernier sondage CSA pour CNews. Mardi, le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères avait procédé au rapatriement de 35 mineurs et 16 mères.
Je ne voulais pas qu'on s'attarde trop sur l'agitation à l'Assemblée nationale parce qu'il me semble qu'il y a des sujets, vous l'avez dit, autrement plus importants, éminemment politiques et bien plus que tout que ça. Trop de patients, je vous le disais, pas assez de soignants, une équation impossible qui n'épargne aucun hôpital, aucun des grands CHU. Pour y remédier, la mission Flash qui a été remise par celui qui est devenu le nouveau ministre de la Santé, François Braun, bien préconise, alors c'est une piste, de refuser l'entrée des urgences, mais écoutez bien, au moins malades. Choquant, inquiétant, regardez le sujet de Reda Mrabit et vous répondez juste après.
Avant de formuler sa proposition, le docteur Florence Busquer a tiré un constat.
Ce qui est clair, c'est qu'il y a trop de personnes qui arrivent aux urgences qui n'ont rien à faire aux urgences. Alors, les urgences, c'est pour accueillir ce qui est vital.
Elle l'assume face à un été qui s'annonce difficile et des moyens manquants pour l'hôpital. Il faut faire un premier tri, mettre en place un ticket pour les urgences. Comprenez, un premier filtrage via un accueil téléphonique pour rediriger les personnes souffrantes vers le bon service.
Moi, je l'avais découvert donc sur le Danemark. Ça marche très très bien. C'est-à-dire qu'il réoriente vers la médecine de ville ce qui a lieu d'être en médecine de ville. Il envoie vers les urgences ce qui a vraiment besoin d'être en urgence. Les patients sont soignés, ils sont mieux soignés comme ça.
Une mesure indispensable selon elle face à l'engorgement des urgences. Un engorgement qui risque de créer des situations délicates.
Imaginez que vous, un jour, vous ayez un infarctus et qu'on ne puisse pas vous soigner dans les temps parce que il faut finir de gérer les non-urgents qui sont dans les urgences.
Il y a quelques jours, le gouvernement a retenu les propositions de la mission flash concernant cette période estivale délicate. Une des premières mesures concernées, la régularisation de l'accès aux urgences.
Comment vous pouvez juger des moins malades, c'est ça ce qui est utilisé, si c'est juste un appel téléphonique et qu'il n'y a pas de diagnostic et que vous n'allez pas aux urgences pour savoir ce qu'il en est pour être redirigé?
Oui, tout à fait. Tout à l'heure, vous avez présenté la mission flash en disant pour y remédier, pour remédier à la situation catastrophique dans les hôpitaux. Moi, je dirais plutôt pour l'aggraver. Hein. Déjà, il faut le dire, c'est de la moquerie, c'est un scandale absolu qu'après 2 ans de suspension des libertés au nom soi-disant de la santé, ce gouvernement non seulement n'ait rien fait pour améliorer la situation dans les hôpitaux, mais propose de détricoter le modèle de l'hôpital français. Cette idée de trier les patients, c'était en fait de dire que le problème dans les hôpitaux, c'est pas qu'il n'y ait pas de soignants. Déjà, il y avait cette sémantique avant, on disait il manque de lits, comme si c'était le meuble, on pouvait aller acheter des lits dans un magasin de meubles. Non, il manque de soignants, il manque de personnel, il manque donc de budget. Et au lieu de dire ça, on culpabilise les patients en disant, en gros, les gens vont à l'hôpital parce qu'ils n'ont rien. Prenons des situations très précises. Les symptômes d'un AVC, ils ne sont pas très clairs. Non. On peut tout à fait faire un AVC sans s'en rendre compte, en le voyant beaucoup plus tard, etc. Donc là, ces propos, ne serait-ce que ces propos, hein, je ne parle même pas des mesures, ils ont comme conséquence que quand demain des individus vont avoir des symptômes éventuellement un peu troubles, une vision un peu diminuée, etc., ils vont se dire « je ne vais pas aller embêter les urgences pour ça », et ils vont faire leur AVC et ils vont mourir tranquillement dans leur coin. Donc ce sont des propos extrêmement dangereux et c'est profondément problématique d'accuser comme ça les patients au lieu de vouloir réparer.
Des médecins m'ont déjà dit qu'il y a des personnes qui intègrent le fait qu'elles ne doivent pas appeler les urgences pour ne pas déranger et qui restent ainsi avec de très lourds problèmes qui s'accumulent et s'aggravent dans les jours suivants.
Et qu'on est obligé d'accueillir en urgence après.
Évidemment. Voilà. Et dans un état critique.
Non, mais la question qui se pose, c'est dans quel modèle d'hôpital trie-t-on les patients? Ce sont finalement des modèles très ultralibéraux. On trie des patients aux États-Unis, on trie des patients en Grande-Bretagne. Partout où l'hôpital est une entreprise comme une autre, eh bien, on trie les patients en fonction de leurs moyens. Et dans le cas un peu mixte du NHS britannique, c'est en fonction de leurs moyens, mais aussi de la gravité de leur situation. Donc moi, j'ai pas envie que la France devienne ce modèle-là. La grandeur de la France pendant des décennies, ça a été aussi la grandeur de son système de santé qui soigne tout le monde indistinctement et qui se donne les moyens pour le faire. Alors moi, je ne comprends pas, si vous voulez, que dans un contexte où on manque de personnel, on ne réintègre pas les 15 000, je crois, personnels soignants qui ont été virés parce que non vaccinés.
Pas d'actualité, a dit le ministre de la Santé.
Oui, pas d'actualité. Mais le plus inquiétant, c'est que le ministre de la Santé dont vous parlez, Sonia Mabrouk, c'est un partisan d'un modèle libéral.
C'est une vraie question.
Libéral.
Il était à la commission, je crois, à l'une des commissions au Parlement, et il dit, mais vous avez la baguette magique? Vous pouvez me dire comment on fait dans une telle situation quand il y a trop de patients et pas assez de soignants? Dites-moi une solution.
Pourquoi il est ministre, alors?
Déjà, on réintègre les soignants. Enfin, c'est déjà une
Moi, j'aimerais revenir sur ce qui a été dit. Je ne peux pas laisser dire que le gouvernement n'a rien fait en matière de santé publique.
Bah, on voit le résultat.
S'il vous plaît, là, ce n'est pas possible. Je peux continuer mes propos sans être coupée toutes les 5 secondes. Donc, dire que le gouvernement n'a rien fait, je répète, c'est faux. Pourquoi je dis ça? Il y a eu... Non, mais j'y viens. Vous avez le Ségur de la Santé, où vous avez 19 milliards de budget qui a été consacré. C'est pas assez, ce n'est jamais assez. Mais pourquoi ce n'est pas assez, 19 milliards de budget consacré à l'hôpital public? Parce que on a accumulé un retard qui date pas de ce gouvernement. Depuis plusieurs années, eh bien, l'hôpital a commencé à être, entre guillemets,
le
parent pauvre.
Mais maintenant,
etc.
Qu'est-ce qu'on fait?
Donc, vous avez dire que le gouvernement n'a rien fait, c'est faux. Je vous ai cité les chiffres, ce n'est pas assez. Il y a un problème également de gouvernance, et ce n'est pas moi qui le dis. Vous avez des professionnels de santé qui disent il y a des problèmes de gouvernance, il y a des problèmes aussi d'attractivité dans les métiers qui sont mal payés, c'est vrai, qui sont mal payés. Donc, il y a eu des revalorisations de salaire.
Est-ce que la solution, c'est de trier aux urgences?
Non, et j'y viens. Voilà, et j'y viens. Et concernant cette mission flash, et moi, je rejoins ce que dit Patrick Peloux quand il dit attention à ce que, eh bien, l'hôpital public et surtout les urgences ne deviennent pas une immense plateforme
téléphonique avec les inégalités que ça engendrerait en matière de santé publique. Ça, c'est vrai. Je ne vais pas dire le contraire. Après, des pistes sont.
Oui, mais alors celle-ci, elle.
Dans ce rapport, le recours à la télémédecine.
Non, mais ça. Mais ça fait 15 ans, 20 ans, 25 ans, 30 qu'elles sont évoquées. Moi, ce qui me. Qu'est-ce que ça veut dire encore le mot assistance publique ?
Bien sûr.
Ah oui, enfin, mais c'est un sens dans notre pays. Ça, on est d'accord.
Et enfin, avec le niveau d'impôt qu'on paye.
Et juste une chose, je ne veux pas prendre la parole de Jean-Loup, mais il y a une chose qui est scandaleuse. C'est que pendant cette crise sanitaire, tous les gens qui la contestaient, le gouvernement nous traitait de criminels en nous disant que, justement, ils invoquaient l'argument qu'eux, ils ne voulaient pas trier les malades, qu'il fallait soigner tout le monde et que nous étions des criminels, tandis que, d'ailleurs, dans les faits, c'était eux qui proposaient de trier les malades entre vaccinés et non vaccinés. Mais là, moi, j'aimerais dire que c'était une inversion accusatoire totale. C'est-à-dire ceux qui se moquaient de la santé publique, c'était précisément les mêmes que ceux qui prenaient en otage l'entièreté de la société au nom soi-disant d'un rapport tout à fait hygiéniste et moralisant à la santé. Mais ce sont eux qui ont engendré cette situation dramatique dans les hôpitaux et la majorité des soignants ne s'y trompent pas et voient très très bien quelle est la source de leurs maux.
Quant à l'appel au 15, parce que faut savoir, le risque c'est qu'il y ait des millions en fait d'appels supplémentaires qui vont arriver au SAMU et que vont faire les gens ? Appeler les pompiers, mais ça va être vraiment, moi ce sera l'effet domino. On va plus savoir qui appeler, il va y avoir un engorgement pour certains, pour le SAMU. Vous vous souvenez de cette affaire terrible, ouais. C'était il y a quelques mois, c'était l'affaire Naomi Musanga, il me semble, hein, une jeune femme qui était décédée et elle avait eu des violentes douleurs abdominales. Et au téléphone, les deux opératrices du SAMU, je crois, de Strasbourg, c'était ironique. Alors que c'était quelqu'un qui souffrait. Donc, vous voyez même un diagnostic au téléphone, combien c'est compliqué.
Oui, non, mais je ne sais pas si vous connaissez le poème de Rimbaud intitulé « Le bateau ivre », mais c'est ce qui s'applique totalement à l'hôpital, qui est à la fois une immense machine qui est devenue tellement, tellement obèse, notamment par son système bureaucratique, qu'elle est devenue totalement ingérable et qui part à la dérive, et si bien qu'on ne sait plus quoi faire et qu'on en arrive justement à des solutions complètement délirantes comme celle-là, tellement, en fait, voilà, tellement on ne sait plus quoi faire. Et justement, c'est très intéressant que vous rappeliez cette affaire, puisque à l'époque, ça avait déclenché un véritable scandale. On envisageait de poursuivre les standardistes. C'était vraiment, je me souviens des déclarations choquées du personnel politique qui disait « plus jamais ça, on va tout réformer ». Et là, c'est complètement oublié, c'est complètement passé à la trappe. Mais en plus, ce qui s'est passé là et qui apparaissait comme un dysfonctionnement lourd avec des conséquences mortelles va être en fait érigé comme la norme est le nouveau principe de fonctionnement. C'est-à-dire que ce qui était l'anormal et le scandaleux il y a 2 ou 3 ans devient la nouvelle norme positive. Donc ça, c'est quand même, c'est quand même effrayant. Et à aucun moment, moi, je maintiens que la crise du Covid a révélé, en fait, ce qu'on savait depuis bien longtemps, mais a révélé publiquement un état déplorable et catastrophique de notre hôpital. Et je maintiens que le gouvernement n'a rien fait sur le fond. Il n'a pas attaqué les problèmes structurels, les problèmes organisationnels. Il y a énormément de problèmes. La dépendance aux médecins étrangers exploités et sous-payés, l'hypertrophie bureaucratique, les ARS qui n'obéissent qu'à Bercy et n'ont aucune préoccupation de santé publique, mais uniquement des préoccupations budgétaires.
Et qui est une forêt, ces ARS. Voilà. Même
et est-ce qu'on va les réformer, voire les dissoudre, ces ARS, ou les mettre vraiment au service de la santé ?
Guillaume Parrot qui est avec nous. Bonjour à vous, docteur. Il y a un joli panorama derrière vous.
Ah ben oui.
Vous n'êtes pas au cabinet.
Mais je viens de finir la consultation et
tout va bien. Je vous remercie de nous consacrer un peu de temps. Docteur, c'est un sujet évidemment éminemment important et vraiment, enfin, tout le monde peut avoir affaire à ce genre de situation et de détresse. Et on s'inquiète de ces pistes aujourd'hui. Moi, je précise, ce sont des pistes. Mais j'entends le ministre de la Santé qui nous dit, regardez, l'équation, elle est très compliquée, voire elle est impossible. Trop de patients, pas assez de soignants. Ça n'épargne aucun hôpital. Les grands CHU sont vraiment mis sous tension. Cette sorte de tri, le mot, il choque, mais ça peut être la réalité, des patients pour les urgences. Qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous réagissez à cela, docteur ?
Mais déjà, il faudrait se souvenir que notre système de santé en France marche sur 2 jambes, la médecine de ville et l'hôpital. Là, je n'entends parler que de l'hôpital, alors qu'il y a des médecins de ville qui sont prêts à travailler et de manière indépendante. Et qu'est-ce qui se passe ? C'est qu'une des mesures annoncées par la mission Flash, par exemple, c'est de valoriser les consultations hors patientèle 15 euros, donc vous avez tous entendu ça, à condition de passer par le 15. Donc on va encore plus encombrer le 15 au lieu de prendre directement rendez-vous avec son généraliste par téléphone ou par Doctolib. Voilà, donc à chaque fois qu'on peut encombrer le 15, on a l'impression qu'on l'encombre encore plus. Donc moi, mon avis, ce serait qu'il faudrait consacrer le 15 aux vraies urgences, qu'on n'attende pas pour une douleur thoracique plus d'une minute que le téléphone décroche, et qu'on donne les moyens organisationnels aux médecins généralistes de prendre en direct ces consultations supplémentaires. Nous, par exemple, en été à Biarritz, on a énormément de personnes qui sont hors résidence, donc qui n'ont pas leur médecin sur place. Et voilà, on a besoin d'un petit coup de pouce pour accueillir tout le monde, pour travailler davantage aussi. Mais on a l'impression à l'heure actuelle que les mesures ne répondent pas du tout à cette demande.
Vous avez raison. Donc, mais j'imagine là, on est avant les vacances, c'est la période estivale. Quelqu'un a une douleur thoracique. Bon, le médecin traitant généraliste, parfois, il n'est pas facile à trouver en cette période-là aussi.
Alors, si vous avez une douleur thoracique, ça m'est arrivé pas plus tard que la semaine dernière, n'allez surtout pas chez votre généraliste en premier, vous faites d'abord le 15. Voilà. Parce que attendre dans une salle d'attente quand on a une douleur thoracique, c'est pas bon. Mais d'autres exemples, effectivement, le problème, c'est que les patients ne savent pas comment forcément trouver un médecin généraliste. Il y a des moyens, mais souvent, voilà, c'est complet. Donc il faut donner, encore une fois, les moyens aux généralistes de faire des consultations hors patientèle. Et à partir de là, on désengorgera. Il faut aussi encourager à ce qu'il y ait plus de généralistes qui pratiquent, y compris pendant les vacances. En tout cas, nous, à Biarritz, on est fidèles au poste. Moi, j'ai passé mon été à travailler, à recevoir des gens. Mais c'est sûr que si demain on n'est plus là, les urgences qui sont déjà saturées,
docteur,
le seront encore plus.
Deux questions précises. La première concerne, la deuxième concerne les masques. La première concerne, je vais commencer par les masques quand même, c'est important et je sais que c'est un sujet qui vous tient à cœur. En tous les cas, on vous a souvent entendu sur ce sujet. Le retour des masques dans les transports, vous entendez, ça devient maintenant presque la panacée, en tout cas une recommandation du gouvernement. Qu'en pensez-vous?
Alors écoutez, par rapport au transport, moi j'ai envie de vous dire, on est en plein été, essayez de marcher plutôt que de prendre le métro, essayez de prendre votre vélo plutôt qu'une voiture à chaque fois que c'est possible, donc déjà vous limiterez les risques. Ensuite, bien sûr que dans les espaces clos, il vaut mieux déjà aérer, ça c'est la première chose, avant de porter un masque, il faut aérer. Pas plus tard que tout à l'heure, j'ai eu un cas de Covid chez une patiente qui faisait une formation dans des locaux fermés, cloisonnés, sans masque, sans rien. Donc forcément, tout le monde se l'est passé. Donc c'est des choses de base, mais on a l'impression qu'on ne les a pas assez répétées. Donc l'aération.
Et pourtant, on les a entendues, je peux vous dire.
Oui, mais voilà, mais aujourd'hui, il fait beau, il n'y a pas l'excuse de « il fait trop froid dehors ». Donc on ouvre les fenêtres en grand, on sort dehors, on s'aère au possible. Et ensuite, on laisse le libre choix aux gens, je veux dire. Les personnes qui ont besoin, la nécessité ou la peur de prendre des transports sans masque, qu'elles mettent un masque, il n'y a pas de problème.
Et docteur, la réintégration des personnels soignants non vaccinés?
Écoutez, moi ça fait... On n'aurait jamais dû les suspendre déjà, première chose. Ensuite, il faudra les réintégrer un jour ou l'autre, j'espère le plus tôt possible. Ils devraient déjà être réintégrés. C'est un scandale véritablement d'État qu'on laisse ces personnes... suspendus sans solde, sans traitement, ils sont traités vraiment comme des moins que rien, alors qu'aujourd'hui, il faut le savoir, des soignants malades du Covid travaillent et sont appelés au travail malades. Alors on sait que vaccinés ou pas vaccinés, vous êtes malade, vous êtes contaminant et vous contaminez des patients. Donc on prend le problème complètement à l'envers. Au lieu de dire aux soignants infectés, ne venez pas travailler, et venez travailler si vous n'êtes pas infecté, on prend le problème à l'envers. Donc vraiment, la vaccination, pour moi, obligatoire des soignants, c'est l'arbre qui cache la forêt de la misère, malheureusement, d'hôpital français. Aujourd'hui, on ne peut plus la cacher parce qu'on est en été. Et on voit que voilà, nos services d'urgence, qui étaient quand même notre fleuron, moi j'ai travaillé plusieurs années en tant qu'interne aux urgences, savoir que, alors pas sur la Côte Basque, mais que dans certains services de France, les urgences fonctionneront en mode dégradé, c'est vraiment un aveu d'échec terrible. Et moi, je prône vraiment pour plus de médecins debout devant les patients et moins derrière des téléphones assis ou derrière des écrans pour des cabines de téléconsultation qu'on va retrouver maintenant jusque dans les supermarchés. Donc ça, vraiment, c'est de la pseudo-médecine, c'est de la médecine fast-food. Il faut vraiment sortir de ce cycle infernal.
Et sortir des tableaux Excel et prendre un peu et respirer du bon air comme vous le faites. Merci, docteur Barak. Je vous dis à très bientôt.
Merci à vous, Sonia.
Il fait beau à Biarritz. Profitez-en. Et à très, très bientôt sur nos antennes. Le rappel des titres et ensuite on engage le débat avec Audrey, évidemment, c'est CNews Info.
Et justement, Elisabeth Borne ne rendra pas le masque obligatoire dans les transports en commun. Elle l'a dit hier soir à la télévision. En revanche, la Première ministre appelle à la vigilance des Français et à leur bon sens, c'est-à-dire porter le masque dans les lieux clos où il y a beaucoup de monde. L'État a l'intention de renationaliser à 100% le groupe EDF, c'est ce qu'a annoncé Elisabeth Borne hier. Le prochain PDG sera nommé de façon anticipée, a annoncé Bercy ce matin. Et puis les vacances d'été, c'est ce soir et déjà les professeurs se mobilisent pour la rentrée de septembre. Hier, une manifestation devant le rectorat de Rennes était organisée. Plus de 3000 professeurs risquent de manquer à la rentrée. Et ce matin, le ministère a annoncé que 4000 postes n'ont pas été pourvus lors des concours d'enseignants cette année.
Vous avez entendu là, les propositions du docteur Barré, qu'en pensez-vous ?
Ah bah moi, je trouvais qu'il était très bien, ce docteur, et que ce qu'il disait était très, très intéressant, y compris sur la réintégration des soignants non vaccinés. Et donc, je vais aller très vite, je vais faire trois remarques. Premièrement, on voit bien qu'il y a...
Quand on dit ça, c'est qu'on ne va pas vite. Hein. On ne peut pas en faire deux, là.
On vient déjà de perdre 15 secondes. Donc, et c'est de votre faute. Donc, première remarque, c'est qu'il y a globalement un mépris du monde hospitalier public pour les cliniques privées et pour la médecine libérale. Ça s'est vu notamment au moment du Covid, où c'est qu'il y a des hôpitaux parisiens surchargés. On a payé aux frais du contribuable des TGV pour aller à l'autre bout de la France, à plusieurs centaines de kilomètres, notamment justement dans le sud-ouest, emmener des patients de Paris jusque dans le sud-ouest en TGV, alors qu'en fait, il y avait des cliniques privées qui étaient vides à quelques dizaines de mètres de ces hôpitaux parisiens et qui disaient « nous sommes prêts à accueillir les malades, nous voulons travailler ». Et par mépris, on n'a pas recouru eux. Donc c'est cette espèce de guerre, en fait, comme il y a la guerre des polices, là la guerre des soignants entre les hôpitaux, les cliniques, les hôpitaux et les médecins libéraux, c'est quelque chose de terrible. Deuxièmement, vous disiez, justement, c'est un problème qui concerne même et surtout les grands CHU. Mais justement, je vais vous dire quelque chose qu'on ne dit jamais, je me suis renseigné, c'est que ces grands CHU, justement, ils sont trop grands. Et que ce sont des usines à gaz, encore le syndrome du bateau ivre, absolument impossible à gérer, et qu'il faudrait plutôt des moyennes structures, mais pas des structures gigantesques qui deviennent ingérables sur le plan organisationnel, et qu'il faudrait casser ces grands CHU pour avoir des établissements, disons, de taille moyenne, de taille intermédiaire, qui sont ceux, en fait, qui fonctionnent le mieux. Et enfin... Dernier.
Attends, on oublie le dernier point.
Non. dernier point, c'est qu'on a vu justement. Moi, j'étais bien d'accord avec ce que disait ce médecin, et le panorama était magnifique. Et lui, il disait, en gros, tout se passe bien à Biarritz. Mais en fait, il y a un phénomène qui est bien connu et dont on ne parle pas trop. C'est l'héliotropisme du corps médical. Grec Hélios, le soleil, c'est-à-dire qu'il y a une surconcentration des médecins sur la Côte d'Azur et dans le sud-ouest. Et donc, évidemment, c'est un phénomène qui est analysé, qui est bien connu. Voilà, héliotropisme du corps médical français, clientèle aisée, âgée, et de l'argent et du soleil. Donc, évidemment,
ça se concentre dans ces régions. Et qui écoute votre débat passionné, est-ce que c'est entendable, malgré les... Il y a véritablement des problèmes et aux urgences, mais est-ce que c'est entendable de refuser l'entrée de quelqu'un aux urgences, même pour un bobo comme parfois on l'entend. Est-ce que psychologiquement c'est entendable ?
C'est quand même incroyable, c'est que on accueille au titre de l'aide médicale d'État énormément d'immigrés clandestins en France qui sont soignés avec toute la palette de soins. C'est pas entendable pour les Français. Effectivement, de s'entendre dire que leur système de santé n'a pas les moyens de les soigner eux. Parce que soit on a les moyens, effectivement, pour les autres, et dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi on n'aurait pas les moyens pour nous, soit on n'a pas les moyens pour nous, et dans ce cas-là, il faut les réserver à nous et pas aux autres. Enfin, à un moment, il faut être logique et cohérent dans la vie.
Moi, je vais vous dire sincèrement, je trouve que cette histoire, c'est à nous dégoûter de la politique. Vraiment. C'est-à-dire que, au sens fort du terme, quand la crise sanitaire a commencé, il y avait un monde hospitalier, médical, qui était en détresse profonde. Le gouvernement a joué là-dessus, en les héroïsant, en leur disant « maintenant, on a compris ». On a vraiment compris, ça va changer. Et ces gens-là, les soignants, pour qui moi j'ai un respect infini, ils ont mis de côté leurs revendications professionnelles, corporatistes, leur détresse, leur lucidité sur les conditions de travail impossibles dans lesquelles ils travaillaient déjà. Ils ont accepté qu'elles soient aggravées pendant 2 ans. Ils ont tout pris sur eux parce qu'ils pensaient, alors peut-être pas tous, mais ils pensaient que le gouvernement les avait enfin entendus, puisque étant donné qu'on les applaudissait tous les soirs à 20h de manière un peu comme ça naïve, ils se disaient on a enfin été entendus, et ils se retrouvent derrière avec un hôpital qui s'aggrave. Et je veux dire, moi si j'étais ministre de la Santé, ou Premier ministre, j'arriverai comme ça, mais la tête recouverte de cendres, en disant « Pardon, pourquoi on n'a pas arrangé le problème dans les hôpitaux ? Je ne ferai pas avec cette morgue une mission flash qui aggrave, qui culpabilise les patients, qui ne change rien à la situation, avec ce vernis technicien, comme si le vernis des technocrates et de la langue technocratique allait faire avaler la pilule. » Moi, je trouve ça vraiment répugnant.
Répugnant, vraiment. La joie ouais.
Il y a une réforme nécessaire de l'hôpital. Ça, je pense qu'on est tous d'accord là-dessus.
Qu'on attend.
Après, je vais vous dire, ce sont aussi les soignants qui demandent de la régulation en ce qui concerne l'arrivée aux urgences, parce que ils sont débordés. Moi-même, je suis allée, il m'était arrivé, d'aller aux urgences, et eux-mêmes, avec une attente qui dépassait voire une heure, deux heures, et eux-mêmes me disaient, nous sommes débordés. Et donc, cette demande de régulation, elle est faite par les soignants. Une fois que j'ai dit ça, je me répète, moi, je ne suis pas du tout favorable à ce qui est la mise en place d'une plateforme, d'une plateforme qui, par téléphone, déjà, vous le disiez très justement, on n'évalue pas la gravité d'un symptôme au téléphone. Ça, c'est très, très juste. Mais ce médecin a dit aussi quelque chose de très important. Il dit qu'il faut vraiment renforcer la collaboration entre les différents professionnels de santé. Parce qu'on ne fait que de parler de l'hôpital. Mais la médecine de ville a aussi un rôle à jouer. Vous parliez de l'hôpital, et là, je vous rejoins quand vous avez dit tout à l'heure, il faut absolument aussi que l'hôpital public travaille avec les cliniques.
Il faut vraiment que
cette réforme ait lieu.
Parce qu'il n'y a pas la volonté politique.
Et que les collaborations nécessaires soient enfin mise en place.
On vient d'entendre une succession de truismes. Dire que effectivement, ce sont les médecins qui demandent de la régulation. Bah oui, forcément, qu'ils n'ont pas les moyens et qu'ils sont surchargés.
Oui.
Bon, ça vous enfonce une porte ouverte.
Excusez-moi. C'est un constat auquel il faut répondre.
C'est un constat. Il ne faut pas avoir fait 12 ans de médecine pour comprendre.
Il ne faut pas avoir fait 12 ans d'avoir fait l'ENA pour comprendre ça.
En tout cas, oui, mais justement, moi, je l'ai pas dit.
Mais quelle est la solution alors que on fait ce constat-là? Il faut bien des solutions, non?
La solution, mais la solution.
Et là, c'est quoi?
Moi, je ne suis pas au gouvernement, c'est vous.
C'est quoi la solution? La réponse facile.
C'est vous qui représentez la majorité.
Je ne suis pas au gouvernement.
Si vous représentez la majorité.
Non, mais j'ai donné des pistes. Une meilleure collaboration entre les professionnels de santé.
Vous avez fait quoi? Rien.
Sur ce débat qui ressemble à l'ambiance de l'Assemblée nationale, on va marquer une solution. S'il vous plaît.
C'est le vide sidéral.
C'est le vide sidéral.
On a commencé cette émission. On a commencé cette émission. Vous nous aviez dit surtout pas le boxon à l'Assemblée nationale. Vous avez raison.
Les deux qui étaient pour le boxon se sont tenus.
Oui, c'est très révélateur.
On revient. Peut-être avec nous dans quelques instants le journal. Je vous précise tout d'abord les thèmes pour cette deuxième heure. On va parler de l'école, on vient de parler de l'hôpital. Vous allez voir que la problématique n'est pas si éloignée. Alors à la rentrée, pénurie d'enseignants, de professeurs pour vos enfants. Non, rassure ce matin le ministre de l'Éducation nationale, mais comment quand on voit l'état de l'Éducation nationale? Nous parlerons aussi d'un sondage, ça va vous étonner. On parlait hier de ce sujet sur le retour des enfants de djihadistes, vous allez voir ce que pense une majorité des Français. Beaucoup d'autres sujets, mais d'abord, place au journal. Rebonjour Olivier.
Rebonjour Sonia, bonjour à tous, et on va démarrer avec le pouvoir d'achat, priorité affichée du gouvernement face à l'inflation, et une série de mesures présentées aujourd'hui, comme la revalorisation de 4% des pensions de retraite et des prestations sociales, mais aussi un chèque alimentaire de 100 euros, plus 50 euros par enfant, un bouclier tarifaire sur l'énergie ou encore la suppression de la redevance télé. Et dans ce contexte, le président des centres Leclerc, Michel-Édouard Leclerc, estime que l'inflation a été sous-estimée partout en Europe. Il s'exprimait dans la matinale de CNews. On l'écoute au micro de Laurence Ferrari.
L'inflation, elle sera à 6-7% en septembre-octobre. Ce qui est considérable, parce que si vous prenez le revenu médian des Français, le salaire médian des Français, c'est un demi-salaire qui va être impacté. Mais il y a l'impact sur les revenus, mais il y a un impact social évident parce que ça recrée les écarts entre ceux qui peuvent et ceux qui ne peuvent pas. Et l'écart de pauvreté s'est déjà accru pendant la période Covid. Et puis ça va avoir un impact sur les finances publiques puisque là, il va y avoir une surenchère sur un premier canevas d'aide.
Mmh. 25 milliards d'euros.
Ça va être très impactant, quoi.
L'école, mais aussi les hôpitaux, face aux difficultés de recrutement. Sonia Mabrouk et ses invités vont en parler dans un instant dans Midi News. Et Elisabeth Borne a promis hier 200 000 places supplémentaires pour les crèches, aussi touchées par ce manque d'effectifs, et une aide aux familles monoparentales pour la garde des enfants jusqu'à 12 ans. Alors, comment a été accueillie cette annonce dans le secteur de la petite enfance? On écoute Philippe Dupuis, le directeur de l'association des collectifs enfants parents professionnels.
Le secteur est confronté à des difficultés de pénurie de professionnels, de financement des structures, de difficultés multiples qui font que développer un service public petite enfance et notamment 200 000 places est un programme qui est très 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 ambitieux. C'est quasiment impossible en termes de professionnels, de mobilisation de professionnels. On ne voit pas comment les planètes se sont alignées d'un seul coup et on ne sait pas si c'est dans les 3, 4, 5, 10 prochaines années.
Et on en vient à ce rapport du Sénat qui révèle que 35 000 ponts de notre réseau routier seraient considérés comme dangereux. La réparation de tous ces ponts coûterait des sommes astronomiques aux communes. Alors quel est l'état de ces édifices? Que contient ce rapport? Les éléments de réponse avec Stéphanie Rouquier, Jean-Michel Decaze et Thibault Marcheteau.
Alors que 80 000 véhicules empruntent tous les jours ce pont qui surplombe la ville de Martigues, il est classé en 2018 dans la catégorie 3U. Comprenez, un ouvrage dont la structure est gravement altérée et nécessite une intervention urgente. La rénovation, qui a coûté 40 millions d'euros, était nécessaire pour éviter une catastrophe. Des ponts dangereux comme celui-ci, il en existe beaucoup en France, comme par exemple dans cette ville vendéenne, où le pont devient si menaçant que la municipalité a dû interdire le passage des poids lourds. Pour rénover l'édifice de la commune, la facture représente un coût que la mairie ne peut pas assumer seule.
Si on refaisait le pont par l'intermédiaire d'un tablier, c'est du 500-600 000 euros. C'est le budget de la commune de Saint-Radegonde des Noyers.
En juin dernier, les sénateurs ont livré un rapport sur l'état et la gestion des ponts en France. Le constat est sans appel.
Beaucoup d'ouvrages ont été construits, il faut se le dire, après-guerre. Et donc, il arrive donc, de façon beaucoup plus courante que ces ouvrages arrivent en fin de vie et présentent des risques, encore une fois, importants en termes d'utilisation.
À la suite de ce rapport, les sénateurs, membres de la commission, affirment que l'État ne prend pas assez en considération l'urgence de la situation des ponts en France.
Place au débat dans un instant dans Midi News avec Sonia Mabrouk et ses invités, mais avant le sport avec l'insubmersible Raphaël Nadal qui s'est qualifié à Wimbledon pour les demi-finales. C'est la chronique sport.
Regardez votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
Rafael Nadal jouera bien les demi-finales de Wimbledon. L'Espagnol s'est qualifié au terme d'un quart de finale de 4h20. Mené de 7-1 par Taylor Fritz et touché aux abdos, Nadal s'est finalement imposé en 5 manches. 3-6, 7-5, 3-6, 7-5, 7-6, il affrontera Nick Kyrgios pour une place en finale. L'Australien s'est lui qualifié pour sa première demi dans un majeur suite à son succès en 3-7 face à Christian Garin.
Vous avez regardé votre programme avec Sector, montre connectée pour hommes. Sector, no limits.
Midi News, la suite, le débat avec nos invités autour de cette table. Frédéric Durand, merci d'être là et bonjour, bonjour à vous. Directeur de la revue L'Inspiration Politique. Eh ben voilà, la voici. Avec à la une, le maire de Cannes et président de l'Association des maires de France, David Lisnard. Et j'ajoute quand même ce hors-série magnifique. Machiavel, ces principes qui vous concernent, c'est bien ça pour l'été. Comment devenir Machiavel? C'est pas comment maigrir.
Machiavel n'est pas cynique. Hein. Alors,
il est habile.
On l'a fait en complicité avec Nathan Devers qui était à mes côtés.
Il n'est pas cynique non plus.
Et qui est... Non, pas du tout. Pas et du qui tout. Donc explique les concepts. Donc on s'est dit qu'en magazine, ça pouvait faire un petit peu moins peur qu'en bouquet.
C'est une formidable idée. Voilà. Donc et vous avez tout, vous avez expliqué l'habileté, la fortune, la vertu, la morale et les humeurs. Nathan Devers qui était avec nous. Jonathan Sixou. Bonjour et bonjour. Bienvenue, qui est journaliste auprès du magazine Causeur, et maître Maxime Thiebaud qui nous accompagne. Bonjour. Merci d'être là également. Mais oui, l'école est finie, la cloche a sonné, ça signifie qu'il n'y aura pas de prof à la rentrée. Je vais changer les paroles quelques temps. C'est un sujet très sérieux. Pourquoi? Parce que, évidemment, penser que quand nous étions enfants ou élèves, on se réjouissait quand il y avait quelques profs absents. Mais là, quand ça dure des semaines, voire même parfois plus que cela, ça devient très embêtant, évidemment, sachant que nous avons un niveau scolaire qui est le nôtre en France. Regardez ce sujet. Et j'ajoute que maintenant aussi, il y a les job dating, comme le speed dating, mais adapté au job d'enseignant pour recruter non pas un amoureux ou une amoureuse, mais un prof. Les explications de Mickaël Chailloux.
Quelques heures avant les vacances scolaires, ces enseignants sont déjà mobilisés pour la rentrée. Fait rare, tous les syndicats de l'éducation ont répondu à l'appel pour tirer la sonnette d'alarme avant le 1er septembre. Il manque en France, selon les syndicats, 80 000 enseignants.
On va manquer d'AESH, on va manquer de profs de maths, on va manquer de profs de techno, et on risque même aussi de manquer, dans certains cas, d'enseignants du premier degré, puisqu'on va avoir un manque de personnel remplaçant. Je n'ai jamais vu une rentrée aussi mal ficelée.
Sur la rue, manifestation. À l'intérieur, pour pallier le manque de professeurs, le rectorat organise un job dating pour recruter des contractuels.
Ils sont en train de recruter des gens qui, sans condition de concours, sans formation, seront professeurs dans les établissements l'année prochaine.
Selon les chiffres du SNES, 25% des postes proposés au concours du second degré ne sont pas pourvus. C'est même 70% pour le CAPES d'allemand.
En effet, plus personne ne veut passer le concours. Un jeune qui débute dans le métier aujourd'hui, il a 1,1 le SMIC avec un Master 2, quand c'était 2,2 fois le SMIC en 1982.
De nouvelles mobilisations sont déjà programmées pour la deuxième quinzaine d'août.
Juste avant que vous n'arriviez, juste là dans la première heure, nous avons parlé de l'hôpital, de l'état de l'hôpital, du tri dans les urgences. Éventuellement, là, l'école avec une pénurie de soignants, je pose toujours la même question. Comment, Jonathan Sexton, avec un tel niveau d'impôts, comment on a ces services publics-là? Comment on peut l'expliquer?
Vous posez une très bonne question et malheureusement, personne ne peut y répondre aujourd'hui parce que c'est là où c'est assez effarant, pour ne pas dire scandaleux, c'est qu'aussi bien l'hôpital que l'école ont effectivement des budgets qui sont parmi les premiers en France, premiers de l'OCDE même. Ce sont des budgets considérables. On n'arrête pas année après année de dire que le niveau baisse. Le niveau baisse chez ceux qui apprennent, mais le niveau baisse aussi chez ceux qui transmettent le savoir. Et c'est assez effrayant de se projeter et de se dire quelle est la nature du savoir que pourra transmettre quelqu'un qui n'a pas de diplôme particulier, mais qui aime bien les jeunes et qui a eu son job dating comme ça pour prendre à bras le corps et à la volée, si je puis dire, une classe à la rentrée prochaine, que ce soit en maths, en français, etc. Vous avez un délitement progressif. Quand vous voyez en plus le message politique qui est pour le coup incompréhensible, Emmanuel Macron, en nommant Pap Ndiaye à l'éducation nationale, envoie un signal politique qui vaut ce qu'il vaut. C'est le wokisme à la barre, ok, mais quelles sont les priorités affichées par le ministre de l'éducation nationale? Parmi ces priorités, il y a l'enseignement de l'écologie et de la protection de la nature. C'est très bien de le faire, je ne dis pas le contraire, mais quand on a des enfants qui arrivent au bac et qui même parfois arrivent en master, en ayant des problèmes énormes de compréhension d'un texte, des problèmes considérables de lecture, de parler, etc. Protéger la nature, c'est bien, mais ils peuvent apprendre à trier leurs ordures chez eux et pas en classe, par exemple. Et il y a toutes ces questions-là de formation du citoyen, parce qu'un élève qui ne sait pas parler, qui ne sait pas réfléchir, il n'est pas apte non plus après à être un citoyen.
Est-ce qu'il n'y a pas, vous avez raison, entièrement raison, une responsabilité plus grande aussi, parce qu'on parlait du gouvernement, de la politique, mais j'allais dire de la société, Frédéric Durand, de la déconsidération du métier mais d'enseignant. Moi, vous êtes jeune, il y a quelques années, souvenez-vous. Oui, aussi, vous êtes jeune. Je suis gentille aujourd'hui, prenez-le comme ça. Comment considérer nos enseignants, c'est vrai, nos professeurs?
Non, mais il y a deux choses, je pense, et vous avez raison de faire le parallèle avec les infirmiers, parce qu'on croit que les métiers dits de vocation, avec ces métiers-là, on pourrait tous se permettre. Or, qu'est-ce qu'il y a en commun? Il y a une déconsidération du métier, et puis il y a des salaires qui sont absolument pas attractifs, ce qui fait de ces professions des professions qui sont aujourd'hui délaissées. Lorsqu'on regarde les chiffres, je regardais l'Académie de Versailles, de Créteil, etc., vous avez 1400 postes à pourvoir, vous avez 400 admis. Donc, ça signifie que ce métier n'attire plus, ce qui n'était absolument pas le cas il y a une trentaine d'années. Donc aujourd'hui, je pense que, et c'est un service public, je pense que ces gens qui travaillent dans les services publics ne sont pas suffisamment payés, tout simplement, parce qu'il faut gagner sa vie dignement. Ce sont des métiers, il faut l'avouer, qui deviennent de plus en plus difficiles, parce que je crois que cette comment dire...
Ouais, il faut le dire. au risque psychologique et physique aussi. Hein, voilà, en parler. Voilà.
Il y a une fragmentation de la société qui fait que ça rend ces métiers extrêmement difficiles. Et parallèlement à ça, la syndicaliste le disait sur votre antenne tout à l'heure, on gagnait à l'époque 2,2 fois le SMIC. Aujourd'hui, c'est 1,1 fois le SMIC. Donc, des gens qui sont mal payés, qui ne sont pas considérés, qui font des métiers extrêmement difficiles et auxquels on demande, c'est pareil pour les infirmiers et pour les profs et les professeurs d'école, à qui on demande presque de régler tous les problèmes de la société.
C'est une vraie question. Est-ce que vous conseilleriez à votre enfant de devenir professeur? Je vous regarde Nathan Devers, je suppose que vous n'en avez pas encore. Mais est-ce que vous diriez à un enfant aujourd'hui, bah écoute, fais l'un des plus beaux métiers au monde quand même, qui est celui d'enseigner, de transmettre?
J'ai le temps et je pense que d'ici là, ça sera empiré encore. Mais malgré tout, je pense que je le conseillerais. Ensuite, évidemment, l'enfant serait libre. Mais je veux dire, parce que être professeur, c'est un métier qui est central. C'est un métier qui est au cœur de la transmission, premièrement, de la transmission des savoirs, l'inscription dans le temps long, et puis au cœur aussi d'un point de vue politique. C'est la matrice de l'égalité, l'éducation nationale. L'éducation, les lycées publics, c'est la matrice de l'égalité. C'est cette idée centrale que, où que vous soyez sur le territoire français, vous êtes censé, je dis bien censé parce que malheureusement oui,
c'est
pas le cas,
principe que vous
recevoir
édictez, hein.
Le même enseignement et la même éducation. Mais je suis tout à fait d'accord avec Frédéric Durand. Le fait est que les métiers de vocation sont en train, pour des raisons qui ne sont pas que politiques d'ailleurs, sont en train de diminuer, de perdre en prestige, de perdre en conditions matérielles, mais en prestige. Ce qui fait que ce sont des métiers qui demandent des énormes études et qui après, quand vous sortez des études, c'est là que les difficultés commencent presque. Alors que si vous comparez par exemple avec le métier d'avocat, les études sont tout aussi longues. Les conditions de travail, ensuite un avocat, un jeune avocat travaille beaucoup. Mais enfin, c'est un métier où les conditions de travail sont plus épanouissantes, sont plus respectées, sont moins difficiles. Et donc ça fait que le parallèle, en effet, entre l'hôpital public et l'éducation nationale est tout à fait, à mon avis, pertinent.
C'est pour ça que Maxime Thébault n'a pas hésité. Non, maître, je ne sais pas si vous aviez peut-être une aspiration à devenir professeur.
Oui, d'une certaine manière, j'aurais pu être professeur, je pense. Parce que c'est une vocation qui est assez partagée aussi avec les avocats. On a le souci de l'autre quand on est avocat et quand on est professeur, on a le souci de la transmission. Donc finalement, on se retrouve derrière cette chose qui est se donner aux autres et qui est quelque chose qui n'est pas évaluable sur le plan financier. Parce qu'en fait, si on regarde globalement notre service public, depuis 30 ans, l'État et la nation sont des choses ringardisées. Ça ne doit plus exister. Aujourd'hui, on est dans la mondialisation, la consommation, le moderne, la start-up, etc. Et on se rend compte avec les crises sanitaires, avec toutes les crises qu'on a vécues, qu'en fait, la nation, c'est notre socle commun de culture, de savoir, de valeur qui doit se transmettre. Et donc, le professeur est le cœur de la transmission de la culture. Et je rejoins tout à fait ce que disait Nathan. Et puis, l'État, c'est le vecteur de communication qui permet en fait à ce que les gens puissent vivre ensemble.
Professeur est le cœur de la transmission, mais aujourd'hui au cœur de la transmission, quand le parent d'élève lui laisse faire ce rôle.
C'est l'une des perversités de ce poste national et de ce poste État où l'individu est maître de tout et au-dessus de tout et au-dessus même de l'État et de sa représentation à travers le professeur.
Mais c'est de notre faute collective aussi.
Mais c'est de notre faute collective et c'est de la transmission d'un individualisme exacerbé qu'on paye aujourd'hui des professeurs qui ne sont pas respectés. C'est aussi ça la réalité concrète. Mais on voyait tout à l'heure dans votre reportage 35 000 ponts qui menacent de ruine. Vous parliez tout à l'heure des urgences où on n'a plus de financement. En réalité, on s'est rendu compte que le service public qu'on a détricoté depuis 30 ans, il nous est fort utile. Parce que on parlait d'un principe magnifique qui est l'égalité. C'est que c'est des biens qui nous sont communs à tous. Et il faut qu'on revienne à l'essentiel de notre nation.
Alors vous n'avez que le mot égalité dans la bouche, mais je ne parle pas du tout de vous, mais j'ai remarqué que ceux qui ont ce mot à la bouche mettent leurs enfants dans le privé.
Ah oui, non, mais c'est souvent la petite hypocrisie. Hein.
Bon, vous savez,
ce sont les mêmes qu'on peut croiser dans Paris, qui viennent nous parler des pauvres migrants qui arrivent en France. Et je suis d'accord que c'est inadmissible la manière avec laquelle on les accueille, mais qui ne vont pas s'occuper des SDF qu'on voit à tous les coins de rue, parce que c'est quand même une réalité à Paris. Moi, je suis choqué quand je traverse rue de Rivoli le soir de voir des SDF partout et de voir personne qui en prend soin. Donc en fait, on est quand même dans un pays qui est rongé à la fois par l'hypocrisie et l'individualisme.
C'est pour ça, entre le principe et la réalité, on va continuer à en parler, mais tout d'abord, le rappel des titres, c'est News Info avec vous, Audrey.
La nouvelle indemnité carburant sera mise en place le 1er octobre. C'est ce qu'a annoncé ce matin Bruno Le Maire chez nos confrères d'Europe 1. Cette aide concernera les travailleurs à revenus modestes et les gros rouleurs. De son côté, la ristourne de 18 centimes sur le litre de carburant disparaîtra progressivement d'ici la fin de l'année. Le gouvernement va réformer l'allocation adulte handicapé afin de la calculer de façon individuelle, c'est-à-dire sans tenir compte des revenus du conjoint. L'an dernier, 22 associations avaient appelé Emmanuel Macron à une réforme historique. Enfin, les fournitures scolaires dans le viseur. Les autorités sanitaires françaises veulent mieux encadrer leur composition. L'Agence nationale sécurité sanitaire et alimentaire craint la présence d'éléments dangereux pour la santé, notamment dans les cols et les gommes. Aucune réglementation n'existe pour le moment. Pourtant, les enfants, vous le savez, sont exposés à ces objets tous les jours.
La perte d'attractivité de la profession d'enseignant est réelle à cause des rémunérations indécentes, vous l'avez dit, des revalorisations promises qui n'ont pas lieu, mais aussi, il faut en parler, Jonathan Sixou, de la crainte, des agressions de la part des élèves, de la part des parents des élèves, parfois et souvent du manque aussi de soutien de la hiérarchie. Il y a tout cela qui entre en considération.
Et tout cela dessine, Sonia, le visage d'une nouvelle société, une société qui n'est pas très attrayante, qui n'est pas très rigolote à observer, d'autant qu'on voit que ça va crescendo dans la violence, que ça va crescendo dans la bêtise. Souvenez-vous, il y a encore quelques semaines, l'épisode de Sophie Germain, cet écrivain qui a été menacé de mort, menacé de viol par des élèves qui passaient le bac et qui n'ont pas compris l'extrait de son bouquin qu'ils avaient à commenter. C'est effarant. À l'ignorance, les pauvres, ils n'ont pas été suffisamment instruits pour comprendre une quinzaine de lignes, mais à leur ignorance, ils ajoutent la barbarie, dirais-je, de vouloir assassiner un auteur qu'ils n'ont pas compris. Nous sommes en France. Hein. Et il y a cette nouvelle donne, ce nouveau rapport de force imposé par les parents. Vous avez entièrement raison de le pointer, qui fait que le prof, il peut avoir peur de ses élèves en classe, mais maintenant, il a aussi peur des parents qu'il peut croiser en sortant, parce que de plus en plus de parents veulent que leurs enfants, tout en étant de moins en moins correctement instruits, aient de meilleures notes possibles et puissent passer systématiquement dans des classes supplémentaires.
Quel est le principe, Jonathan Sixou, vous tous ? Est-ce qu'il faut dire l'éducation à la maison, l'instruction à l'école.
C'est exactement les mots que j'allais employer, Sonia.
Est-ce que tout le monde est d'accord ? Souvenez-vous,
souvenez-vous qu'il fut un temps où ce ministère s'appelait le ministère de l'instruction. Voilà. Et je pense qu'il faudrait peut-être que Macron, qui aime revenir à de grands principes et à de grands mots qui ont marqué l'histoire de notre République, serait inspiré, oui, pourquoi pas.
Il va nous faire de la communication.
S'il laisse à ce poste le ministre actuel, peut-être.
Mais d'accord, éducation, la maison, instruction, l'école.
Non, je pense pas qu'il puisse y avoir de barrières inamovibles entre l'un et l'autre.
Enfin, voyez, moi, on attendait.
Non, mais je ne veux pas qu'il puisse y avoir de barrière inamovible. Parce que lorsqu'on est instruit, à l'évidence, on éduque. Sauf si vous pensez le contraire.
Moi, je pense un citoyen, c'est ce que vous voulez dire.
Quelle que soit l'instruction, c'est s'éduquer au monde, être instruit.
Vous voyez ce que je veux dire. Parce qu'à un moment, si vous mettez la limite, les parents d'élèves, c'est pour le professeur.
Et si je renverse la chose, je vous dirais que quelqu'un qui n'est absolument pas instruit ne peut pas être éduqué. Donc on voit bien que ça fonctionne comme ça.
Vous êtes trop inspiré de votre Machiavel.
Moi, ce que je constate surtout, c'est qu'il y a une élite pédagogique qui nous a expliqué pendant des années, que c'est l'enfant qui devait être au centre et non plus les savoirs. Et je pense que le vrai problème nous vient de là. C'est-à-dire que, effectivement, dans les milieux, je dirais, un peu plus bourgeois, etc., l'enfant peut trouver un complément d'éducation, un complément culturel à la maison, mais que dans les classes populaires, qui sont les plus nombreuses, les classes moyennes, les classes populaires qui sont les plus nombreuses, très souvent, il n'y a pas ce complément à la maison. Et donc, c'est bien le savoir qui doit être au centre, en tout cas au primaire, et non pas
Frédéric Durand, la question, c'est pourquoi aujourd'hui des parents d'élèves s'octroient le droit de venir dire aux professeurs ce qu'ils doivent faire ? Pourquoi ils ont mal noté, selon eux, leurs enfants ? Pourquoi ils ont été sévères avec leurs enfants alors que c'est
ce que j'explique, c'est-à-dire que dès lors que l'enfant, on nous dit que l'enfant doit être au centre, à ce moment-là, tout devient permis. Si le savoir est au centre, eh bien, c'est le savoir qui doit être appris, qui doit être intégré, et c'est là l'erreur, à mon avis. Et aujourd'hui, ceci doublé d'un individualisme qui n'est plus approuvé fait que chaque parent voudrait que son enfant ait telle ou telle éducation. On individualise tout, on singularise tout, là où l'école justement...
Parce que tout le monde pense avoir enfanté un génie, et quand il y a une mauvaise note, on se demande, mais oui, c'est vrai, pourquoi, alors que c'est une sanction qui amène forcément à une progression.
Non, c'est d'autant plus dramatique que nous fabriquons des ignorants sur plusieurs générations, depuis plusieurs générations, et qu'un niveau baisse, c'est une chose, et on ne peut que s'en alarmer. Mais le problème, c'est que le niveau baisse justement dans les savoirs et dans les diplômes qui sont donnés au fur et à mesure. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même diplômés, nous aurons à terme, ce serait sur le long terme, tout cela, ce processus, nous aurons des gens qui sauront moins que ceux qui étaient à leur place.
Ça fait des années qu'on ment.
Mais oui.
On leur ment.
Et c'est pour ça que c'est dramatique.
C'est grave. Un tel mensonge, c'est criminel de faire croire à des enfants qu'ils ont tel niveau et ils se retrouvent ensuite.
Il y avait deux solutions. Quand on a voulu amener 80% d'une classe d'âge au bac, il y avait deux solutions. C'était ou avoir une meilleure éducation ou bien faire baisser le niveau du bac. On a choisi la deuxième solution. Donc on a effectivement amené plus d'élèves au bac, mais à un niveau inférieur que celui qui existait auparavant. Donc ça, ce sont aussi des choix. Je vous dis, le fait de vouloir mettre l'enfant au lieu de mettre les savoirs au centre a été l'erreur, à mon sens, fondamentale. C'est-à-dire que l'enfant, il doit d'abord maîtriser les savoirs fondamentaux pour pouvoir ensuite s'épanouir et non pas l'inverse.
Ça tombe tellement sous le sens et le bon sens, normalement.
Moi, ce qui me choque d'autant plus, c'est que je l'ai vécu. Je suis exactement dans la génération, et Nathan, on est dans la même génération, où on a vécu cet égalitarisme qui tendait à ce nivellement par le bas. C'est-à-dire que quand vous étiez trop bon élève, on vous mettait dans des classes de mauvais élèves pour les tendre vers le haut. Et en fait, vous ne tendiez plus vers le haut. Moi, c'est exactement ce que j'ai connu. J'étais dans un collège ZEP où le mélange, c'était magnifique. J'étais dans des classes où j'ai jamais pu apprendre l'anglais parce que la prof était déprimée une fois sur deux et qu'elle venait pas en cours. Et qu'en même temps, vous aviez des étudiants qui ne la respectaient pas et que le proviseur était incapable de faire rétablir l'ordre dans son établissement scolaire. Ça a été la réalité que j'ai vécue. Et j'ai vu aussi des hussards de la République, des sauveurs, des profs qui ont tiré par le haut leur classe, parfois même contre leur direction, parce qu'ils sortaient des clous pour nous enseigner autre chose. C'est ça, moi, mon enfance. Et je suis arrivé à m'en sortir quand je suis arrivé à l'université, j'ai pu me faire une culture générale. Mais il y en a combien qui ont été abandonnés sur le bord de la route et qui pourtant auraient pu avoir des carrières peut-être universitaires magnifiques si l'éducation nationale avait fait son boulot de sortir et de former des citoyens vers la culture plutôt que les rabaisser en leur disant le nivellement par le bas, c'est l'égalité. Et c'est ça qui a été terrible dans ma génération. Et j'en voudrais, mais fortement, à tous ces faux ministres de l'éducation nationale qui ont fait de la bien-pensance au lieu de transmettre les savoirs.
Et on voit déjà la conséquence de cela dans certains domaines. On a une pénurie, notamment d'ingénieurs en France. Vous savez qu'on est obligé d'importer des ingénieurs. On nous parle du nucléaire, de la filière qu'il faut redynamiser, etc. On n'a plus formé d'ingénieurs en France capables de maintenir des centrales nucléaires. Une classe d'âge d'ingénieurs va partir à la retraite. Que va-t-on devoir faire? On va devoir, en attendant que de nouveaux seront formés, importer, si je puis dire, des ingénieurs américains, des ingénieurs chinois. Et ce domaine-là, il peut se calquer malheureusement sur d'autres. Et c'est ça qui est assez inquiétant.
Même si on a encore quand même, récemment, médaillé Field, qui était un...
Oui.
Bon, non mais... citons la pointe de l'iceberg.
Oui, d'accord.
Quand elle est... oui,
bon. Mais ça, justement, c'est très intéressant parce qu'en fait, on observe quand même qu'il y a une augmentation totale des inégalités dans l'éducation nationale. C'est-à-dire que dans le niveau... Des formations entre guillemets élitistes, depuis 40 ou 50 ans, le niveau n'a pas tellement baissé. Peut-être un tout petit peu, mais c'est très très peu sensible. En revanche, c'est la différence, la disparité entre ces lycées-là et les lycées plus difficiles dans des quartiers où il y a déjà de la précarité, ça ne fait qu'en rajouter. Je pense qu'on assiste à un mouvement qui est aussi une sorte de refus des savoirs non essentiels, des savoirs qui n'ont pas de valeur ensuite économique. Aujourd'hui, l'incarnation de la grande école qu'il faut absolument faire, c'est l'école de commerce.
Il y a une autre actualité en ce moment en Grande-Bretagne. On va juste aller voir parce qu'il y a un discours de Boris Johnson qui doit démarrer et qui est peut-être imminent en tous les cas, tout aussi imminent que sa démission. Et donc évidemment, ça va provoquer une onde de choc, d'ailleurs un peu plus largement en Europe. L'homme du Brexit, le souverainiste Boris Johnson, on va voir les images dans quelques instants. Cette démission, dont on va attendre quand même l'officialisation qui a été annoncée un petit peu dans tous les journaux britanniques, il serait sur le point, le Premier ministre, de quitter la tête du Parti conservateur. Voilà, on a l'image, on va voir dans quelques instants quand il va sortir du fameux 10 Downing Street, et on va écouter, parce que ça va avoir des répercussions, d'autant plus, Jonathan Sixou, il faut le dire. C'est un symbole, Boris Johnson, c'est l'homme du Brexit, ce sont certaines idées aussi en Europe, donc sa démission va avoir des effets.
On parlait d'un pays qui va mal, la France. Il y a un pays qui va très mal, c'est la Grande-Bretagne. En Angleterre, vous avez une inflation considérable. Vous avez des gens aujourd'hui qui ne mangent pas à leur faim et cela se compte par millions. Il y a une vraie crise sociale et économique en Angleterre. Boris Johnson a prouvé qu'il n'était pas en mesure de pouvoir affronter tout cela. J'ai du mal aujourd'hui, selon moi, il est encore trop tôt, je ne suis pas un expert en question britannique, mais je ne pense pas que tout est à mettre sur le dos du Brexit. Mais il y a, en revanche, une incompétence évidente à ficeler un gouvernement qui puisse tenir la route et avoir des ministres compétents, là aussi. Et Boris Johnson, aujourd'hui, paie le prix de tout cela.
Bien. On va marquer une courte pause, on va revenir, restez avec nous, on va écouter ce discours du Premier ministre. Je vous dis, ça a quand même des conséquences. Hein. D'abord, c'est un symbole, ça a été l'homme du Brexit. Ce sont certaines idées, c'est-à-dire qui ne sont pas en phase avec certains leaders, notamment en France, le président français. Donc on va voir ce qu'il va dire et s'il va officialiser sa démission. À tout de suite en direct. Dans des scandales à répétition, accusé de mensonges, Boris Johnson pourrait justement officialiser sa démission dans quelques instants. Vous en parlez dans vos titres, Audrey.
Oui, le Premier ministre britannique Boris Johnson va s'adresser à son pays dans quelques instants et, selon la BBC, présenter sa démission de chef du parti conservateur au troisième jour, vous le disiez, d'une crise politique sans précédent. Et puis la guerre en Ukraine et les évacuations qui continuent à Sloviansk dans le Donbass. Selon le maire, 23 000 habitants sont toujours coincés dans cette ville. Les conditions de vie sont catastrophiques. Le réseau d'approvisionnement en eau ne fonctionne plus depuis un mois et l'électricité est régulièrement coupée. Enfin, la première ministre Elisabeth Borne s'est pliée au traditionnel discours de politique générale à l'Assemblée nationale. Elle a annoncé que 15 000 places de prison supplémentaires devraient voir le jour. Elle a également évoqué le recrutement de 8500 magistrats et personnels judiciaires.
Bye bye Boris, affirme déjà ironiquement ses opposants. Il faut dire que depuis quelques jours et quelques semaines, c'est une vague de démissions autour du Premier ministre. Quasiment tous les ministres qui sont partis, rappelons qu'il est empêtré, Boris Johnson, dans des scandales à répétition, des mensonges que la presse britannique a relayés ces derniers jours. Sa position est de plus en plus intenable jusqu'à ce matin, la BBC qui a affirmé qu'il devrait normalement démissionner et quitter donc aussi la tête du parti conservateur. Pourquoi c'est un symbole? Au-delà de l'homme du Brexit, évidemment, dans notre scène européenne, c'est important, Jonathan Sixou, sur certains sujets, sur la migration, hein, le sujet migratoire. Souvent, il a eu des oppositions, notamment avec le président français, notamment avec le ministre de l'Intérieur, d'ailleurs, Gérald Darmanin.
Et la dernière décision qu'il a prise en la matière en a marqué plus d'un, qui a même été retoquée par la Cour européenne des droits de l'homme, parce que je ne sais plus par quel mécanisme la Grande-Bretagne dépend encore de cette Cour européenne des droits de l'homme. Boris Johnson, qui a signé un accord avec le Rwanda pour expatrier les immigrés illégaux sur le territoire britannique pour les envoyer au Rwanda et faire souche là-bas. Le premier avion a été bloqué dès le jour de son décollage, donc cette chose ne s'est jamais mise en place. Boris Johnson, souvenez-vous, quand il a été élu, ça a fait beaucoup sourire également, parce que c'était un journaliste un peu foutraque, il avait été un maire de Londres un peu flamboyant et décalé.
Pardonnez-moi, on voit la porte du 10 Downing Street qui s'ouvre, et voilà Boris Johnson qui va s'exprimer en direct. On va l'écouter.
Merci. Clairement, le Parti conservateur du Parlement a décidé qu'il devait avoir un nouveau chef du parti et donc un nouveau Premier ministre. Et je suis d'accord avec Sir Graham Brady, le chef de notre comité. Le processus doit commencer maintenant. Et nous allons annoncer le calendrier la semaine prochaine. Et aujourd'hui, je n'appointe un comité jusqu'à ce qu'un nouveau chef soit élu. Alors, je veux m'adresser aux millions d'entre vous qui ont voté pour nous en 2019, beaucoup qui ont voté pour les conservateurs pour la première fois. Merci. Merci de nous avoir accordé votre confiance. La plus grande majorité depuis 1987. Et la plus grande part de vote depuis 1979. Et la raison pour laquelle je me suis battu si vaillamment ces deux derniers jours pour continuer ce mandat en personne, ce n'est pas seulement parce que je voulais le faire, mais parce que j'avais le sentiment que c'était mon devoir, mon obligation à votre égard, de continuer de tenir ce qui avait été promis en 2019. Et bien sûr, je suis empli de fierté par les réalisations qui ont été effectuées nos relations avec le continent notamment. Et nous avons regagné le pouvoir, redonné au peuple britannique, avons surmonté la pandémie, avons apporté mis en place un déploiement du vaccin rapide pour sortir des dispositifs de confinement. Et ces derniers mois, nous sommes joints aux Occidentaux pour se lever contre Poutine. Et alors, je m'adresse au peuple ukrainien et je leur dis qu'au Royaume-Uni, nous continuerons de soutenir votre lutte pour la liberté. Et en même temps, dans ce pays, nous avons mis en place un programme d'investissement considérable en infrastructure, en compétences, en technologie, le plus grand de ce siècle. Et le génie, le talent, l'enthousiasme, l'imagination, ce sont des valeurs qui existent dans notre population. Et nous devons continuer d'amplifier nos efforts, saisir les opportunités qui se présentent dans notre pays. Et si nous pouvons le faire dans ce pays, nous serons la nation la plus prospère d'Europe. Et ces derniers jours, j'ai essayé de persuader mes collègues qu'il serait excentrique de changer de gouvernement alors que nous sommes en phase d'autant de travaux. Et même après quelques mois de période de tension, nous continuons nos efforts. Et je regrette de n'avoir pas pu être couronné de succès sur tous ces plans. Il y avait tant d'idées et de projets. Mais comme nous l'avons vu à Westminster, les choses peuvent avancer. Et mes amis en politique, personne n'est indispensable. Et notre système darwinien permettra d'élire un nouveau chef de parti qui sera tout aussi engagé à faire avancer le pays en des temps aussi difficiles. Aider les familles à surmonter ces crises et améliorer nos méthodes de fonctionnement, retirer le fardeau qui pèse sur les familles et les entreprises. Et continuer d'investir dans nos services publics. Et ce nouveau chef de parti, qui que ce soit, eh bien, je dirai la chose suivante, j'apporterai mon soutien le plus plein. Et je m'adresse aux Britanniques. Je sais que beaucoup seront soulagés. Certains seront peut-être déçus. Mais je veux que vous sachiez que je suis vraiment triste de quitter les fonctions qui étaient les miennes, le meilleur emploi du monde. Et toute ma famille qui a dû faire face à cette situation, je tiens à les remercier pour leur soutien. Et je remercie bien sûr les services publics, la NHS, le service de police. Et je remercie nos forces armées et toutes nos agences qui opèrent dans le monde entier. Et je remercie les membres du Parti conservateur, nos soutiens, qui font que notre démocratie fonctionne. Je vais remercier certaines personnes ici au Ten Downing Street, et remercier tous nos collaborateurs. Mais avant toute chose, je veux vous remercier, vous, les Britanniques, pour ce privilège que vous m'avez donné. Je veux que vous sachiez qu'à présent, jusqu'à ce qu'un nouveau Premier ministre soit choisi, vos intérêts restent ma priorité. Et la priorité du gouvernement de ce pays, le gouvernement va continuer ses travaux. Être un Premier ministre, eh bien, c'est quelque chose dont on tire beaucoup d'enseignements. Je me suis rendu aux quatre coins du Royaume-Uni et j'ai découvert tant de personnes animées par cette originalité britannique avec la volonté de surmonter les problèmes avec des façons innovantes de le faire. Et même lorsque les temps ont pu être difficiles, mais notre avenir ensemble est un avenir en or. Je vous remercie toutes et tous. Merci.
Et c'est donc une page qui se tourne en direct. Je suis triste de quitter mes fonctions, vient de déclarer Boris Johnson. Le processus doit désormais débuté, processus de son remplacement, puisque quasiment l'entièreté du gouvernement est tombée. Sa démission vient d'être actée à la tête du Parti conservateur, il l'a dit. On se souvient quand même, il y a encore quelques semaines, Boris Johnson évoquait presque crânement le fait qu'il pourrait briguer un troisième mandat. Il parlait même d'être Premier ministre jusqu'en 2034. Rappelons à nos téléspectateurs que c'est le héros, entre guillemets, en tous les cas pour ceux qui l'ont élu, charismatique du Brexit, un homme politique atypique aussi, non pas seulement par la couleur de sa chevelure, mais par l'art oratoire qu'il avait. Certains lui ont reconnu d'être un voltigeur aussi de la politique, à l'aplomb phénoménal. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques temps, il faut savoir, Jonathan Sixou, qu'il pensait rester, qu'il avait une bonne étoile, malgré les scandales, malgré tout ce qui s'est passé depuis plusieurs semaines.
Bah justement, il y a un scandale qui n'est pas si anecdotique que ça, Sonia. C'est les fameuses soirées qu'il a données pendant les confinements. Pourquoi je dis que c'est pas si anecdotique que ça? Parce que les Anglais lui en ont vraiment fait le reproche. Et on parlait il y a quelques semaines, nous commentions il y a quelques mois, l'anniversaire de la reine. La famille royale, dans ce domaine-là, s'est montrée exemplaire. Pas une partie, pas une fête n'a été organisée dans un palais de la famille royale durant les confinements pour être sur un plan d'égalité avec le reste du peuple britannique. Et les images des soirées que Boris Johnson donnait dans les jardins de sa propriété de Premier ministre ont vraiment choqué profondément les Anglais. Et il y a eu un fossé qui s'est créé, qui s'est approfondi à ce sujet. Nous parlions aussi tout à l'heure des problèmes économiques du pays. Les services publics sont dans un état assez désastreux. Je vous rappelle que le rail, le ferroviaire britannique a été privatisé il y a près de 20 ans, il me semble. Il est d'année en année dans un état catastrophique. Il y a eu des accidents dramatiques dans le passé. Ils étaient encore en grève la semaine dernière. Il y a pas mal de choses qu'ont fait les Anglais qu'on devrait regarder pour ne pas s'inspirer.
Ça, c'est sûr. Mais restons, vous avez raison, sur sa personnalité, quand même très, très atypique. Vous vous souvenez, quand il est arrivé, quand on l'a découvert aussi en France, pour certains en tous les cas, d'après la presse britannique, ce n'était pas forcément quelqu'un qui baignait dans la politique. C'était plus une star, entre guillemets, qu'un responsable politique. Finalement, il s'est frotté à la politique. Beaucoup de leaders européens disent quand même qu'il a un sens de la politique. Et c'est aujourd'hui celui qui est balayé par les multiples scandales. Une page se tourne pour lui.
Bah, c'est un excentrique, si on doit parler de sa personnalité. Cependant, moi, je voudrais revenir deux secondes sur le fond. C'est que je pense que Boris Johnson, c'était, malgré tout, l'anti-Thatcher. C'est-à-dire que les problèmes que vous évoquez sont des problèmes qui datent de l'époque Thatcher, en réalité. Mais c'était pas du tout la vision de Boris Johnson. Au contraire, il imaginait, lui, le retour de l'État-providence, d'une certaine manière, avec des investissements massifs dans l'éducation, dans la santé, dans les transports. Donc là, il n'est pas écarté par rapport à ses choix politiques, qui sont des choix politiques y compris le Brexit, d'ailleurs, qui sont des choix politiques qui ont été très largement
validés. Donc, ce n'est pas un échec du souverainisme.
Non, ce n'est pas un échec du souverainisme. Ce n'est pas un échec du souverainisme. Vous appelez ça souverainisme. En tout cas, ce n'est pas un échec d'une politique de retour un peu de l'État-providence, moi, je dirais plutôt. Par contre, c'est sur une question de mœurs. Un scandale de mœurs, ce qui est assez anglo-saxon, d'une certaine manière. Mais cela dit, je ne pense pas que la contestation soit de nature, là, pour le coup, politique, au sens des mesures qu'il aurait proposées et qui auraient été rejetées.
Donc, c'est le Party Gate et les scandales répétés qui ont eu lieu.
La question qu'il faut se poser maintenant, c'est est-ce que son éviction va conduire à un retour sur la question du Brexit? Parce que la grande question, ça paraît peu probable.
Ils sont attachés.
Ils y sont attachés, tout à fait. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi là que certains vont tenter une opération de retour, justement, liée au discrédit de Boris Johnson?
Quand on s'intéresse beaucoup à la politique britannique, pour beaucoup de Britanniques, le Brexit, c'est aussi le fait du parti UKIP avec Nigel Farage. C'est Nigel Farage qui, pendant 20 ans, a mené ce combat, et Boris Johnson, aussi par opportunisme politique, s'est inséré dans cette ligne politique, parce qu'il voulait l'État-providence, et je suis tout à fait d'accord avec ce que vient de dire Frédéric, mais il s'est surtout inspiré du combat de Nigel Farage. Et aujourd'hui, ce sont surtout les mœurs de Boris Johnson qui sont concernés. Et tout à fait, le scandale des repas, des dîners pendant le Covid a énormément marqué les Britanniques, parce que les Britanniques font de l'exemplarité un principe fondamental, en tout cas dans leur démocratie. Et je pense que c'est là que se situe aujourd'hui le point de rupture. Alors il est certain qu'en France, certains politiques se serviront du Brexit pour charger le Brexit en servant l'affaire de Boris Johnson. Mais attention à ne pas tout confondre. Certes,
le Royaume-Uni a du mal à vivre son Brexit, doit se réadapter, mais la crise, elle est quand même internationale. Il y a la guerre en Ukraine, il y a eu le Covid qui sont des facteurs aussi d'augmentation de l'inflation et de cette crise de 4% du PIB au Royaume-Uni. Mais le dilemme et l'objectif des Britanniques à devenir le nouveau Singapour de l'Atlantique est quand même bien mené et je pense qu'il sera aujourd'hui mené. Il y a Dominic Raab qui doit être nommé, qui est le ministre de la Justice, qui doit être nommé a priori comme Premier ministre par intérim, et il a été très clair sur son objectif de maintenir la politique britannique de continuité de sortie du Brexit.
Je pense que cet événement étranger, international, nous concerne, nous, la France, à deux titres. Premièrement, comme vous l'avez dit, le rapport à l'exemplarité. Parce que les scandales qui ont pu entourer l'affaire Johnson, Boris, enfin, le pouvoir de Johnson, on en a connu peut-être pas exactement les mêmes, mais d'autres qui étaient analogues. On se souvient notamment qu'il y avait eu pas mal d'affaires quand même en France sur des dîners clandestins, éventuellement, on n'avait pas fini très bien
pas
par savoir.
Là, ça monte jusqu'au Premier ministre. Hein,
oui, on ne savait pas très bien, parce que le M6 avait dit quand même qu'ils validaient leurs informations. Nous ne savons pas très très bien ce qu'il en était, et le poisson a été noyé, et puis comme dans l'information permanente, nous sommes tous amnésiques, on a tous oublié qu'il y avait eu des événements analogues. Plus profondément, il y a en Angleterre quand même un rapport de l'exemplarité à la vie politique qui est très différent. Un parlementaire qui arrive en retard au Parlement, il doit s'excuser platement, parfois au bord des larmes. Je crois qu'une fois même quelqu'un avait présenté sa démission à cause d'un retard qui avait été refusé. Mais je veux dire, c'est un rapport à la vie civique qui est très différent qu'il y a en France. Et puis deuxième titre pour lequel cette affaire nous regarde, c'est que, c'est l'échelle européenne ou l'échelle géopolitique. C'est-à-dire qu'on aurait pu s'attendre à ce que la contestation de l'Union européenne chez Boris Johnson aille de pair avec, disons, un rapprochement vers la Russie de Poutine ou avec une indulgence vis-à-vis de la Russie de Poutine. Moi, je ne suis pas du tout, je ne partage pas les positions de Boris Johnson sur l'Europe, mais je note quand même qu'il a été non seulement au cœur, mais même presque à l'avant-garde du soutien envers l'Ukraine et qu'il a été extrêmement courageux dans cette affaire.
Juste un mot, là où je suis un peu moins optimiste que mon voisin sur la façon dont la Grande-Bretagne pourrait devenir, et Londres, le Singapour de l'Atlantique.
C'est un objectif, hein, j'ai pas dit que je reviendrais.
C'est que le grand frère américain va pas si bien que ça en ce moment. On parle même le spectre de la récession est évoqué aux États-Unis. On voit que l'administration Trump et l'administration Biden ensuite ne s'empressent pas de soutenir. Mais la Grande-Bretagne, pour le moment, n'en a pas franchement besoin. Mais on voit que l'aide américaine n'est pas automatique, et si elle devait l'être, elle ne serait pas si importante qu'espérée chez nos voisins.
Quand Boris Johnson dit « je suis fier de ce qui a été réalisé », rappelons, quand on dit souverainisme, ce n'est pas un concept creux. Il y a certaines, évidemment, précisions sur tout ce qui est migratoire, sur une souveraineté qui n'est pas européenne, pas du tout. Hein. C'est même l'inverse de ce que pense Emmanuel Macron sur ce sujet. C'est un autre concept, un autre logiciel, là.
On oublie quand même que Margaret Thatcher, c'est « I will my money back ». C'est « je veux retrouver ma monnaie », c'est-à-dire qu'elle n'était pas fédéraliste européenne. Elle défendait les intérêts britanniques avant de défendre les intérêts européens. Et les Anglais ont toujours eu ce jeu un petit peu où, oui, on se sert de ce qui est intéressant en Europe, mais dès que c'est plus intéressant, eh bien, on revient sur nos intérêts. Les Allemands, d'une certaine manière, aussi.
Là, vous nous
aussi
décrivez des opportunistes, c'est tout.
Sont des États-nations qui se respectent, qui défendent leurs intérêts. Ce n'est pas parce que nous, en France, on a un petit peu oublié de se défendre que pour autant, on doit critiquer les autres qui le font. C'est ça le problème aussi, c'est qu'on a un prisme idéologique là où eux ont un prisme pragmatique. Mais les Britanniques vont continuer, ils vivent une crise comme nous, hein, parce qu'on n'est pas exempt. Hein. Ce serait quand même mignon d'aller critiquer les Britanniques alors qu'on a une inflation qui explose à 7 points, qu'on va avoir une rentrée particulièrement terrifiante et qu'on nous parle de tickets à urgence pour aller se faire soigner. Donc honnêtement, il faudrait qu'on garde un petit peu notre raison. Mais en tout cas, les Britanniques vivent aujourd'hui quelque chose d'assez sain en réalité. C'est que quand vous êtes touché par des scandales, eh bien vous démissionnez. Et je pense que la France pourrait parfois en tirer un petit
il
peu.
Il s'est accroché, hein, reconnaissons.
La démocratie britannique est très saine.
Mais c'est quand même le chef de gouvernement, celui qui a le pouvoir souverain, outre la reine qui a un pouvoir incarné, mais c'est lui qui a le pouvoir en Grande-Bretagne, et il a démissionné parce qu'il a des scandales. Et il a des ministres qui s'affirment. En France, on a une logique un petit peu différente du respect, en tout cas, de la parole donnée.
C'est votre avis aussi, c'est j'allais dire un élément révélateur de la bonne santé de la vie démocratique anglaise.
Bien sûr, le fait qu'il se soit accroché, c'est probable, mais ce n'est pas un fait politique en soi. Ce qui compte, c'est que l'esprit constitutionnel en Angleterre a fait que même quand quelqu'un s'accroche à son poste, eh bien, il est forcé de démissionner dans des conditions rapides. Contrairement, par exemple, aux États-Unis, où quand Trump a voulu s'accrocher à son poste, la vie politique américaine a fait qu'à un moment, il a pu vraiment s'accrocher jusqu'à la dernière minute de manière forte. Et j'aimerais juste, puisque vous citiez Thatcher, à propos du Brexit, moi j'avais été interpellé par l'analyse qui avait été celle de Dominique Strauss-Kahn juste au moment où le Brexit avait été acté, c'est-à-dire au moment où tous les gens qui étaient favorables à l'Union européenne disaient que c'était une catastrophe pour l'Europe. Et lui avait dit, mais finalement non, parce que l'Angleterre n'a jamais joué le jeu de l'Europe. Donc se perdre un mauvais allié ou quelqu'un qui était juste là pour des raisons opportunistes, c'est peut-être
d'ailleurs
pas si grave que
ça. On peut souligner que tout ce qui avait été dit, ça va être l'apocalypse, ouais, ça va, etc., ne s'est pas réellement passé en Grande-Bretagne. À post-Brexit, ça n'a pas été l'obscurité totale que prédisaient beaucoup de leaders européens.
Oui. Oui, et en plus, il y a une différence, une fois de plus, notable avec Thatcher, c'est que Thatcher disait, il n'y a pas de société, il n'y a pas de peuple, il n'y a que des individus. Je pense que Boris Johnson, c'est l'inverse là aussi. Donc je pense qu'on est dans des conceptions de ce qu'est la société, de ce qu'est le peuple, complètement à l'opposé.
Et ta nation, vous diriez alors ?
Tout à fait.
Totalement assumé, revendiqué et fièrement...
On a eu le jubilé de la reine, les Français étaient... Mais c'est un pays qui a toujours défendu ses intérêts, qui a la couronne, qui vit aussi ses crises. Et je pense que les Français auraient tout intérêt parfois à avoir cette inspiration un peu nationale que la Grande-Bretagne sait faire et sait faire vivre à travers sa démocratie. Vous imaginez qu'un référendum sur le fait de rester dans l'Union européenne ou pas, en France, serait quasiment inconcevable. Le débat ne pourrait... Je ne pense même pas qu'on a la majorité.
Oui,
c'est finalement chaque élection présidentielle.
Parce qu'on a eu très Lisbonne en 2007, où en fait on n'a même pas écouté la parole du peuple.
C'est ça qui était
alors que les Britanniques disent dont acte, le peuple britannique a décidé de sortir, eh bien on sort et on respecte la parole.
Non, mais il faut bien comprendre ce que monsieur veut souveraineté, parce qu'on peut lui donner plusieurs sens. Entendu dans le sens que moi je lui donne, la souveraineté, c'est tout simplement la démocratie. C'est-à-dire que la souveraineté, c'est qu'on ne peut pas.
Mais alors en dehors de la souveraineté, c'est quoi?
Pardon?
En dehors de la souveraineté, c'est quoi?
C'est les États autoritaires ou totalitaires. La souveraineté du peuple, selon moi, et c'est pour ça que ce déni de souveraineté a été, vous évoquiez le traité constitutionnel de Lisbonne, a été complètement foulé aux pieds par Sarkozy, il faut le dire, puisqu'en 2005, on a...
Ils
sont tous mis, mais c'est Sarkozy qui l'a proposé à l'époque, il faut dire la réalité. C'est-à-dire qu'il a été refusé à, je ne sais plus, 56% par le peuple français, et qu'ensuite on l'a fait passer par le Congrès à Versailles, c'est-à-dire l'Assemblée et le Sénat réunis, qui aux deux tiers, je crois, devaient donner leur avis. Donc là, il y a un déni de souveraineté, effectivement. Quant à la souveraineté européenne, moi, je me demande toujours de quoi parle-t-on lorsqu'on parle de souveraineté européenne, puisque l'Europe n'est pas un pays. C'est pas un peuple. Oui, et donc, c'est pour ça qu'on peut y aspirer. On a le droit d'être fédéraliste, mais ce n'est pas le cas aujourd'hui. Et donc, il y a une sorte de contresens à utiliser le mot souveraineté et européen, selon moi, en même temps.
On a un beau magazine sur Machiavel, l'inspiration.
Oui,
et Machiavel définissait très bien la souveraineté et expliquait que la souveraineté, c'est avoir les attributs du pouvoir. Et aujourd'hui, en France, vous n'avez plus beaucoup d'attributs du pouvoir. Vous n'avez plus le commerce international, vous n'avez plus la monnaie, vous n'avez plus le contrôle des frontières. Vous avez finalement un Parlement qui est là pour enregistrer les directives de l'Europe. Plus de 80% des textes ne sont que la retranscription en droit français du droit international et surtout du droit européen. Et les Britanniques, comme les Allemands dans leur manière de raisonner, disent, c'est très simple, on va prendre ce qu'il y a le meilleur, mais on conserve notre souveraineté. On va donner un petit peu de pouvoir, mais on conserve l'essentiel.
Je suis triste de quitter mes fonctions. Voilà la déclaration de Boris Johnson. Et évidemment, les prochaines heures, les prochains jours vont donner lieu à ce processus de nomination, de désignation, d'élection. On va le suivre dans nos prochaines éditions. L'occasion de vous remercier. De vous remercier parce que vous m'avez accompagné aussi tout au long de cette saison. On se retrouve la saison prochaine avec grand plaisir. Donc, bel été à vous tous, à vous tous qui nous êtes fidèles depuis longtemps et notamment à Midi News. C'est un plaisir et un honneur d'être en votre compagnie tous les jours. À très, très bientôt.